Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 179e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 23 janvier et ce soir nous allons bien sûr vous présenter les sorties VO de la semaine, en tout cas une sélection. Nous parlerons de Marvel avec de nouvelles séries qui continuent, notamment Avengers World ou encore Black Widow, de nouveaux arrivants comme All New Invaders ou Empire of the Dead. Nous passerons dans la partie indé avec que des numéros 1, Activist, Deadly Class et X-Files Conspiracy, la suite du crossover. Enfin, chez DC, les deux gros poids lourds de la semaine, Justice League et Batman. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces nouveautés, Mister Nebunny.
Hey, bonsoir les gens.
Et Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
J'ai inversé pensant que Bunny te vaudrait ta réplique, mais non.
Ouais, ouais, il s'est fait avoir,
Quelle, non, non, j'ai résisté, justement.
C'est bien, merci de me laisser ma catchphrase.
Exactement, et mais sinon, je me demandais pourquoi on dit tous bonsoir, en fait, puisque finalement, on sait pas.
Bah, oui, oui, oui.
Parce que nous, on enregistre le soir et que on est conditionné par le manque de lumière dehors. Voilà.
Ouais, mais l'été.
On enregistre tellement tard qu'il fait nuit aussi. Faisons croire aux gens que nous enregistrons à 2h du matin.
Oh, ça a dû déjà arriver. Non, même pas.
Des émissions qui se terminent à 2h du matin, en revanche, c'est déjà arrivé, oui. Et pas que des lives, je vous rassure.
Oh, rarement quand même.
Des Comic City qui traînent en longueur, si. Ouais. Allez, on va attaquer la semaine de comics par Marvel et on commence avec la sortie du deuxième numéro d'Avengers World. C'est bien sûr scénarisé par Jonathan fucking Hickman. Oui, vous comprendrez pourquoi. Et Nick Spencer. Et on retrouvera au dessin Stefano Caselli, qui s'ancre lui-même d'ailleurs. Alors, premier numéro m'avait pas du tout convaincu. Franchement, j'étais vraiment resté sur ma faim, j'avais du mal à voir où ça allait. On avait l'équipe grandiloquente des Avengers et ses multiples membres qui partaient en plusieurs petits groupes sous les ordres de Captain America qui décide de travailler pour le Shield et de résoudre les différentes crises qui poignent le... Non, ça veut rien dire. Qui pointent le bout de leur nez. Qui pointent le bout de leur nez un petit peu partout sur Terre. Et on voyait plein de situations qui pouvaient laisser présager des choses... Peut-être intéressante, peut-être pas. Malheureusement, Jonathan Hickman et Nick Spencer ont choisi la voie du pas. Puisque c'est vraiment ce que je craignais à la fin du premier épisode, c'est ce que l'on a, c'est-à-dire que on va avoir un épisode centré sur chaque petit groupe qui se trouve dans la merde. Et juste un seul groupe. Et donc, on va avoir sur cet épisode le petit groupe de Smasher, Cannonball et Sunspot qui s'étaient retrouvés sur l'île de l'AIM prisonnier. C'est tout.
D'accord.
Voilà.
Donc les autres histoires sont laissées en plan pour l'instant.
Les autres histoires, on verra ça dans le numéro 3, puisqu'on sait que quand on voit la couverture du numéro 3 à la fin de ce numéro, on voit Shang-Chi, donc on s'imagine que ce sera l'histoire qui se passe à Madripoor.
D'accord.
C'est un procédé que je déteste.
Il nous fait du Bendis, quoi.
Ah ouais, vraiment. Là, c'est extrêmement chiant. Honnêtement, cette série Avengers World m'emmerde déjà dès son deuxième numéro. Je trouve ça très lent, très mal raconté. Le personnage de Smasher est totalement inintéressant. Il y avait guère que l'épisode one shot sur elle qui devait être le 5, je crois, de mémoire, ou le 6 peut-être.
Ouais, le 5, je crois.
Qui était pas trop mal. Depuis, ce personnage ne servait pas à grand chose. Et bien là, ça continue. Elle est prisonnière d'un champ de force, hein, sur cette île de l'AIM. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a beau mettre des grands coups de boule dedans, hein, façon le bouc qui fonce, là, ou le taureau. Elle n'arrive pas à sortir. Et on voit que le scientifique suprême de l'AIM décide de s'amuser avec elle. En la laissant partir et en lui faisant tout un petit discours en disant simplement que, bah, en fait, ils veulent sauver la Terre et que l'île de l'AIM croît, elle s'étend, elle grandit presque toute seule, en tout cas en apparence, presque toute seule, avec une technologie qui, selon Bruce Banner, dépasse tout ce qui existe, qui a des siècles d'avance. Pourquoi on aura un début de réponse dans cet épisode? Et le personnage de Smasher, eh bien déjà qu'il ne servait à rien, va servir encore à moins de choses, vu la tournure que prennent les événements. Franchement, l'impression que ça me donne, c'est de relire le premier arc sur Avengers de Hickman. On est dans la même situation, avec un espèce de truc qui va changer la façon dont les humains vont être. Pareil qu'avec Ex Nihilo, quoi. En plus, visuellement, c'est très très proche. Franchement, je me suis emmerdé. Je sais pas comment le dire autrement, je me suis vraiment emmerdé à cette lecture. Comme beaucoup d'ailleurs de lectures de cette semaine, au passage. Mais là, celui-ci, déjà, j'en attendais pas grand-chose, mais j'espérais être surpris. Et ce choix de découper l'arc avec vraiment un focus sur chaque équipe, bah, c'est trop classique. Et puis, bah, du coup, ça n'avance pas. On a quelques petits flashbacks de Smasher quand elle était jeune avec son papy, qui lui racontait des histoires de la Seconde Guerre mondiale, puis son papy qui meurt.
J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça en plus.
Moi aussi. C'est l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Et tout ça, la finalité, c'est quand même le grand truc que l'on sait depuis le départ, depuis le début du run d'Hickman, c'est que tout le monde et toute chose meurt. Et on en reste encore là-dessus, quoi. Je veux bien qu'on développe un grand plan. Hein. Je suis d'accord qu'on essaie de développer un grand plan sur plein de numéros, etc. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais là, c'est juste chiant.
On dirait le sketch de Bigard. Un fumeur sur deux meurt.
Non, je sais pas. Alors, c'est peut-être moi qui ne l'ai pas compris du tout, cet épisode. C'est tout à fait possible. Je suis dans un état de fatigue avancé, donc c'est aussi possible. Mais va falloir vraiment me l'expliquer en détail, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Va falloir essayer de me le défendre et essayer de me le sauver, parce que là, c'est pas possible. Enfin, pour moi,
non,
là,
on va pas essayer.
Non, pas
on
vous, va pas essayer. Je m'adresse surtout aux auditeurs, en fait. Si vous voulez essayer de sauver, de défendre cet épisode... Allez-y.
Sauver le monde.
J'écouterai vos arguments, je lirai vos arguments en tout cas dans les commentaires avec plaisir, mais là je comprends pas. Hickman est nul. Hickman est mauvais.
Vous en rendez compte maintenant sur les Avengers qu'il est pas bon?
Ah, tu exagères peut-être.
Non, mais moi j'ai tellement bien anticipé les choses que j'ai même pas commencé Avengers World et je commencerai même pas à lire ce truc.
Non, vraiment des grosses déceptions quoi. Grosses déceptions, donc honnêtement pour moi, c'est un pass. C'est un pass, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Je vais te passer la parole, Bruno, et on va rester sur le même scénariste. Alors j'espère qu'il sera peut-être meilleur avec ce numéro-là, c'est le Avengers 25.
Oui, Avengers 25, donc Jonathan Hickman au scénario et Salvador Larroca au dessin.
Moi je m'attendais pas à ce que ce soit Hickman au scénario. Comme il a dit le même scénariste et tout, je me suis dit putain qui ça va être, Bendis,
ouais, mais c'est pour
Spencer,
ceux qui ont
peut-être.
Nick Spencer, je cherchais.
C'est pour ceux qui ont loupé le train, tu sais. Et donc en fait, dans cette histoire, petite surprise, je m'attendais à ce qu'on reparte un petit peu sur l'histoire qu'on avait dans le numéro 24, avec ce fameux mystère autour de Tony Stark et peut-être de son futur. Et en fait, en parcourant ce numéro, on a l'impression de lire plutôt un numéro de New Avengers. Donc, puisqu'on est encore à fond dans ces histoires de terres qui sont détruites, de terres parallèles. Et donc là, on a à nouveau encore les méchants de l'AIM qui réussissent en fait en utilisant leur machine qui permet d'extraire des gens dans d'autres dimensions. En fait, ils se récupèrent tout un groupe d'Avengers, en fait, qui viennent d'une autre Terre, et qui, en fait, sont beaucoup moins gentils que les Avengers de notre Terre. Donc,
c'est original comme scénario.
Forever Evil à leur façon, donc peut-être que ça durera moins longtemps. Ça commence avec, sur la deuxième page, en fait, on a la mort d'un personnage connu, d'un Avengers, et du coup, après, c'est une petite enquête de Maria Hill. Le numéro est pas déplaisant. Par contre, ça manque vraiment d'originalité. j'ai vraiment eu l'impression de me dire putain, le coup des gentils qui sont méchants dans une autre dimension et qui viennent foutre la merde dans notre terre, c'est le truc qu'on a vu déjà 10 000 fois.
C'est le truc qu'on voit en ce moment.
C'est le truc qu'on voit en plus en ce moment chez les concurrents. Donc voilà. Et puis il y avait, on voit pas du tout Tony Stark dans ce numéro, donc pas du tout les fils un peu qui ont été posés dans le numéro 24.
Pareil pour Avengers World, hein, on ne le voit pas du tout, hein, Tony Stark.
Ouais. En même temps, c'est peut-être pas plus mal, hein, j'ai envie de dire.
Persona non grata de Jonathan Hickman, apparemment.
Mais cela dit, oui, puis grand méchant de Jonathan Hickman, puisqu'il c'est vraiment un gros pourri à chaque fois qu'il l'écrit. Mais par contre,
on apprendra qu'il travaille pour Kang depuis le départ. Ah non, ça a
pour
déjà été fait. Ça a déjà été fait, pardon.
C'est le grand chef de l'AIM, en fait.
c'est ça. Mais sinon, les dessins de Salvador Larroca, je trouve qu'ils sont pas mal. Ça se laisse lire, mais c'est vraiment un ton en dessous du numéro 24, et pour moi c'est juste un check-it, ce numéro. J'espère que ça sera pas trop long et que ça prendra moins de temps que Forever Evil pour finir cette petite histoire.
Mais pour quand même être un petit peu honnête, DC, les versions méchantes des super-héros, ils font ça tous les mois. Donc en même temps,
Oui.
le jour où Marvel le fait, ça copie forcément ce que fait DC.
Allez, on va passer à toi, Benny, qui va nous parler d'une fin. C'est la fin de FF, avec ce numéro 16, qui est d'ailleurs ton coup de cœur de la semaine.
Ouais, un petit coup de cœur parce que bah voilà, hein, ça a été plutôt bon, ces 16 numéros, un bon petit run sympathique. Comme on en voit trop rarement d'ailleurs, je trouve, aussi bien chez Marvel que chez DC, un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc d'ailleurs sur la couverture, ça s'appelle F1, F1, voilà. Je sais pas comment le prononcer. F1, voilà. Un petit peu comme les hommes serpents dans Conan, ce fameux dessin animé là. Voilà. C'est rare, on va parler de tout sauf
Conan,
du numéro, je pense.
L'aventurier, bien évidemment.
Des grenades. Voilà.
Bon, tu fais bien
alors.
Les phoenix.
Oui, l'espèce de petit oiseau là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, bah alors FF quand même. Donc c'est le dernier face-à-face, le face-à-face ultime entre Scott Lang et Dr. Doom. Donc là, ça va être vraiment comment dire très tendu. Et c'est très bien foutu. Alors il y a beaucoup de dialogues. C'est un épisode qui se lit, mais là, il faut une demi-heure pour lire ce truc. J'ai l'impression qu'il y a plus de pages que d'habitude d'ailleurs pour l'occasion.
C'est pas une impression.
Oui. Et d'ailleurs, alors la question c'est de savoir est-ce que Scott Lang va commettre l'irréparable, est-ce qu'il va mettre à terme sa menace qui est de d'en terminer définitivement avec le Docteur Doom.
Et
impossible.
Au fait, je dirais, ce qui est vraiment dommage avec ce type de série, c'est que j'ai bien peur que ce qui se passe là avec le Docteur Doom, on n'en parle juste plus du tout la prochaine fois qu'on le voit et on fait comme si rien n'était arrivé. Parce que là, peut-être qu'il le tue pas, mais en tout cas, il le tue, on va dire, d'une certaine manière, quoi. Voilà, je vais pas en dire
plus. Intrigant.
Ouais. Alors là, il y a plein de petits gags aussi, hein, quand même. Ça reste assez drôle pour ce qui ne concerne pas forcément Lang et Dr. Doom, parce qu'on voit tous les autres personnages. Surtout à la fin, là, il y a une espèce de réunion sur la Lune avec le Watcher, avec tous les personnages qui sont apparus dans FF au cours des épisodes. Donc il y en a toute une ribambelle avec une super splash page. Ça fait un petit peu se penser à Astérix, tu sais, après la bataille, ça y est, on va tous bouffer autour d'un sanglier. Et ben là, on fait un barbecue sur la lune, quoi, normal. Donc voilà, il y a cette ambiance assez drôle. Et
du Watcher tant qu'il est encore vivant.
Exactement. Puis justement, il y a ce petit clin d'œil aussi, la dernière case. Je peux spoiler la dernière case parce que c'est marrant et puis c'est pas vraiment le gros spoil. On en a entendu parler déjà. Donc la femme du Watcher effectivement est enceinte. Voilà. C'est un petit peu, ça se termine là-dessus sur cet heureux événement. Et non, franchement, c'est vraiment très très sympa. Les dessins, donc, ça m'a fait vraiment aimer Allred, puisque avant j'étais pas spécialement fan. J'ai jamais apprécié Extatix, mais ça venait peut-être du scénario au fait de Milligan. J'accrochais pas. Et donc du coup, les dessins d'Allred me semblaient toujours un peu je sais pas, c'était pas trop ma cam. Et avec FF, vraiment, ça m'a réconcilié totalement avec ce dessinateur, avec cet artiste, et je trouve ça excellent. Voilà. Et donc j'attends ce qu'il va faire sur Silver Surfer, qu'on voit aussi un petit peu dans ses pages. Bon, en tout cas, voilà, coup de cœur, mon coup de cœur de la semaine. C'était vraiment une très bonne série, et dommage que ça s'arrête finalement, parce que c'était bien agréable.
Donc un gros bail.
Un gros bail.
Et sachez que pour les gens qui lisent en VF mais qui écoutent cette émission, le premier tome avec les 8 premiers épisodes de FF sort le mois prochain.
Enfin, il était temps, ouais, il était temps. Au moment où ça s'arrête aux États-Unis, on peut enfin découvrir cette série en français.
Sûrement disponible en avance pour ceux qui iront à Angoulême, d'ailleurs.
Je me demande pourquoi ils ont attendu autant de temps, et puis en même temps je me dis c'est peut-être pour faire le comment dire le jonglage entre Hawkeye et puis cette série, puisque c'est un petit peu la série décalée du moment, quoi. Ouais. Aussi.
Puis peut-être pour pas que ça prenne trop d'avance non plus sur la série FF, la série Fantastic Four, pardon. Peut-être que les deux fins coïncident. Je suis en retard sur les deux séries, donc je sais pas. Parce que je vois que la Fantastic Four s'est arrêtée la semaine dernière.
En fait. Oui. Non, mais bien sûr. Mais j'ai plus rien à en dire. Donc, enchaînons, mes amis.
On passe à la suite. Changement d'univers. C'est la sortie du deuxième épisode de Black Widow avec un scénario de Nathan Edmondson avec des dessins, une colorisation, un ancrage. Enfin, tout fait par Phil Noto, en fait.
On n'en a pas parlé la semaine dernière du premier ?
Non, c'était il y a 2 semaines.
Ah, déjà 2 semaines.
C'était il y a 2 semaines, et ouais. Double dose, comme beaucoup de choses hein, cette semaine, ce mois-ci en tout cas, Avengers World, Black Widow par exemple, double dose. Black Widow numéro 2, alors pareil, premier épisode que j'avais trouvé sympathique, mais qui m'avait pas particulièrement séduit. Franchement, cette semaine, comme j'ai eu un peu de mal à trouver des trucs qui me donnaient vraiment envie, je suis allé le voir. Bon, Black Widow va partir faire une mission à Shanghai. Comme d'habitude, hein, enfin comme d'habitude, comme avec le premier épisode, on a pu le voir, elle veut se faire un acte de rédemption en fait par rapport à tous les gens qu'elle a tués, et elle décide de travailler pour des gens et en éliminant des pourris en fait. Elle choisit son contrat, toujours avec son avocat qui récupère les fonds qu'elle va gagner puisque c'est juste un assassin à louer, un mercenaire, et redonner cet argent à des œuvres de charité. Sa mission à Shanghai va mal se passer, très très mal pour elle. Elle va faire beaucoup d'erreurs et elle va le payer très cher. Par contre, ce que l'on va découvrir avec cet épisode, c'est que celui qui lui sert d'avocat n'est pas qu'un simple avocat, ce qui peut laisser des pistes assez intéressantes pour la suite de l'histoire. J'ai vraiment envie d'en savoir plus presque sur ce personnage-là que sur Black Widow. Et je me demande s'il n'y a pas un petit problème.
Bah, c'est peut-être pas mal d'avoir justement créé un personnage qui est intéressant quand même dans le titre. C'est aussi important d'avoir un bon casting.
Ah oui, non mais oui.
Dans un titre.
Mais le personnage de l'avocat m'intéresse plus que le personnage de la Black Widow.
Ouais.
Donc je me demande s'il n'y a pas un souci. Parce que Black Widow, franchement, qu'est-ce qu'il nous reste à connaître sur la Black Widow à part de la rétro-continuité, chose que je déteste. On en reviendra dessus tout à l'heure avec une autre review. Je veux dire, voilà, on peut que rajouter des choses dans son passé pour essayer de lui donner un peu plus de profondeur, chose qui a déjà été fait au moins 75 fois avec la Black Widow. Elle avait tué des gens, elle a eu encore sa mémoire effacée, enfin, ça a été des trucs dans le genre.
Bah, de toute façon, c'est simple, à chaque fois qu'elle revient avec une mini-série, on te parle de son passé.
Hmm. La Black Widow est l'exact identique de Captain America, de Bucky, tous ces personnages-là qui sont un peu dans la même veine. Bah finalement, n'ont qu'un passé et n'ont pas de futur. Quoi.
Bon, enfin, Captain America, à la rigueur, tu peux créer de nouvelles histoires avec Captain America, comme ce que fait Remender actuellement.
Ce que fait Remender actuellement, mais Brubaker, juste avant lui, a fait beaucoup d'histoires que sur le passé.
Bien sûr, mais par contre, avec Black Widow, c'est uniquement là-dessus. Quoi. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle n'est pas assez... c'est pas un personnage qui a les épaules pour avoir de nouvelles aventures, donc on va plutôt parler de son passé et essayer de lui donner un peu plus de consistance en revenant toujours sur son passé et en changeant plein de choses, et voilà. Et moi j'ai l'impression que c'est aussi pour coller au film à chaque fois.
Ouais.
Parce que dans les films, clairement dans Avengers, elle a plein de dossiers quoi, sur le dos. T'as Loki qui lui rappelle 36 trucs, l'incendie de l'hôpital. Et t'es là, elle fait oh mon dieu, c'est horrible, comment c'est-il ?
Bah, c'était le Joker en fait.
Ouais. Non, mais enfin, c'était très forcé en fait, j'ai trouvé, surtout.
Là, ça finit comme le premier épisode, c'est-à-dire sur un non-cliffhanger. C'est aussi un peu le souci. Pour le moment, on a des épisodes séparés, ce qui est pas mal hein, de lire des épisodes one-shot. C'est Hawkeye au féminin, quoi, cette série.
Ouais, mais enfin, peut-être sans le fun, hein, parce que c'est quand même la grosse...
C'est pas fun. Non, c'est pas fun.
Ouais, voilà. Donc,
c'est pas fun. On est
différence.
En espionnage, Nathan Edmondson gère très bien l'espionnage et l'action, il n'y a pas de problème. Mais comme je dis, pour moi, le personnage le plus intéressant de l'histoire est quand même cet avocat qui a l'air de cacher pas mal de secrets et pas mal de compétences qu'on ne soupçonnait pas.
Moi, je dirais, c'est Velvet chez Marvel, quoi, en fait.
Donc, je vais mettre un check-it parce que visuellement, c'est somptueux, comme d'habitude. Hein. Je veux dire, c'est du Phil Noto. C'est vraiment très beau. En plus, il se permet de faire des différences de style assez drastiques entre les moments de flashback, entre différentes scènes. Donc, vraiment, visuellement, c'est véritablement une bombe. Au niveau scénario, je suis un peu moins convaincu. Donc, check-it. Passons à autre chose, toujours dans les personnages que l'on citait précédemment, c'est les All New Invaders, numéro 1, Bruno.
Oui, donc un nouveau numéro, et c'est James Robinson au scénario et Steve Pugh au dessin. Les New Invaders, ça va être une équipe qui est formée de la torche humaine, mais la torche humaine originale, Namor, Bucky et Captain America. C'est ce qu'on voit sur la couverture, et dans ce numéro on va surtout se focaliser sur le personnage de Jim Hammond, donc la torche humaine originale, qui mène une petite vie un petit peu tranquille en tant que mécanicien Alors, il est dans quel état des États-Unis? Je sais plus si c'est précisé. Si, il est dans l'Illinois. Donc voilà, il est peinard. Et en fait, il se retrouve attaqué par une folle furieuse Kree qu'on a pu voir dans le Marvel Now Point One, qui veut absolument mettre la main sur lui et sur des informations qu'a priori lui seul connaît, à savoir où se trouve une partie d'un artefact magique dont elle veut absolument prendre possession pour son roi. Donc on a droit tout de suite, on rentre dans l'action. C'est ça qui m'a plu, c'est que le numéro est quand même très dynamique. On a tout de suite de la baston. C'est très bien mis en scène. Moi j'aime beaucoup les dessins de Steve Pugh. Il y a une très belle splash page justement quand il y a la première transformation de la torche humaine.
Bien loin du style qu'il faisait chez DC en plus, hein.
Ah oui, c'est très différent. Je reconnaissais presque pas. Et donc voilà. Donc sinon c'est vraiment on rentre vraiment bien dans le truc. J'étais un petit peu déçu par contre parce que du coup l'équipe se forme pas du tout dans le premier numéro. Vous verrez un petit peu ce qui se passe. Mais ça c'est un bon début, même s'il y a des choses qui m'ont fait un peu sursauter, justement en particulier ce qui arrive à Namor, qui me paraît un petit peu bizarre. Mais voilà, j'ai passé un bon moment avec cette lecture et ça a attisé ma curiosité par rapport à la suite. Je sais pas ce que t'en as pensé, Steve.
Déjà, ce que j'ai apprécié de la part de James Robinson, c'est qu'il a vraiment basé sa série sur les restes de Infinity, puisque je crois que c'est Talekit, hein, je crois qu'elle s'appelle The
Ouais,
Pursuer,
c'est ça.
et ce nouveau personnage Kree qui a
Tanalt.
Tanalt, pardon.
Voilà.
Je sais pas pourquoi Talekit. J'avais envie de lui ajouter un nom avec la
Malekith.
consonance démonique.
Voilà.
Donc cette nouvelle Pursuer qui est un petit peu une remplaçante en quelque sorte de Ronan the Accuser aux yeux de l'intelligence suprême Kree, a vraiment monté en puissance grâce à Infinity. On le voyait notamment lors de Crossover et sur la fin et son épilogue. Donc là, qu'elle parte sur Terre vraiment défoncer tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je me suis dit, voilà, James Robinson va utiliser le passé, va nous faire de la rétro-continuité avec All New Invaders, qui est encore plus ou moins bien faite comparée à ce qui viendra encore après. Hein. Je remets un petit coup
Oui,
au
parce qu'on
passage.
a quand même quelques flashbacks, effectivement, sur la Seconde Guerre mondiale, comme c'est quand même un titre New Invaders.
Ouais, et puis, ça va être principalement là-dessus. Puis, je pense qu'on a mis James Robinson là-dessus parce que le Golden Age, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça bien qu'il lit vraiment l'histoire avec la continuité actuelle de l'univers Marvel. Après, un petit peu déçu de voir un personnage, certes, vraiment plus que secondaire, mais mourir dès la première page. Et oui, le mec que l'on voit mort là, qui ressemble avec un costume de Wolverine.
Je le connais pas, ce mec. J'ai pas reconnu.
C'est un personnage cosmique qui était, on va dire, une création ressemblant pas mal à un personnage de la Légion. Bon, voilà.
Moi, il m'a fait penser à Sabretooth, hein. J'ai cru, j'ai dit, putain, ils ont tué Sabretooth. Ah non, c'est pas lui.
Non, c'est un personnage cosmique que l'on voit passer comme ça de temps en temps, mais. Bon, bref, voilà, un personnage qui meurt, c'était pas un gros personnage qui avait une grosse importance, mais bon, quand même. La mise en scène est parfaite, vraiment. Un jeu de double page et de page simple qui est vraiment sympa, qui donne un côté un petit peu ancien, quand même, dans la disposition des cases. Donc on reste avec cet esprit un petit peu vieillot. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, le coup du flashback, le coup de on voit tous la même chose, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi.
Ouais.
Et dernier truc qui me gêne, lier ça un petit peu avec Asgard.
Ah ouais. Oh. Bah, faut voir ce qu'ils vont en faire, quoi,
Mais bah oui, enfin bon, là, ce sera
Le
peut-être
fait
pas.
que, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues à Asgard ces derniers temps, qui foutent la merde sur Terre.
Thor 2,
Ça
quoi.
devient. Ouais,
Thor
c'est plus
2,
vraiment
enfin.
original, quoi.
C'est ça le problème, c'est que voilà, Thor, c'est le dernier film, et donc on met du Asgard un peu partout, quoi. Bon. Mais sinon, l'épisode est bon, j'irai voir la suite, mais j'ai pas été emballé au point que je l'aurais espéré, en fait. J'espérais un wow factor un peu plus important.
Ouais. Ça reste un petit bail.
Petit bail aussi, voilà, mais petit bail. Pas gros gros bail de la semaine, quoi. Benny, revenons vers toi avec la sortie du All New X-Men numéro 22. Now.
Alors un All New X-Men 22. Now, donc qui est la première partie au fait du jugement, donc le procès de Jean Grey, par Brian Michael Bendis et Stuart Timonen, qui est donc de retour au dessin après une petite absence. Donc je me suis dit, vu que la semaine dernière, c'était très très bien, j'avais beaucoup aimé le numéro de All New X-Men à nouveau.
Ben, c'était la semaine dernière, ouais.
voilà, avec le fils Striker, etc. Je me suis dit, bon, allons-y, replongeons-nous dans cette série, et mal m'en a pris, parce que ça redevient pas terrible du tout. En même temps, j'en
déjà,
attendais pas...
en même temps, un truc qui s'appelle Trial of Jean Grey par Bendis, ça pue d'avance, quoi.
Ouais, mais là, c'est... Enfin, là, c'est vraiment, tu sais, du Bendis tout craché, c'est vraiment... C'est même pas une intro, c'est... la première phrase d'une intro, quoi. C'est vraiment, voilà, il y a quasiment rien, quoi, dedans. Donc, on commence
c'est pas un
par
prologue, c'est un proctologue. Pardon.
Voilà, c'est ça. Bah, on commence par une première scène qui est peut-être ce qu'il y a de mieux d'ailleurs dans ce comic, qui est une scène plutôt bien foutue avec une dispute entre donc Cyclope et Jean Grey, mais donc des All New X-Men, hein, avec Archangel qui est au milieu, non, enfin Angel pardon, qui est au milieu, qui du coup sert un petit peu de d'arbitre malgré lui entre les deux, qui sait pas trop où se placer. Donc débarquent des soldats Shi'ar qui ressemblent à des gars de Gears of War, voilà. On sait pas trop ce qu'ils veulent. Enfin si, nous on sait très bien ce qu'ils veulent. Ils enlèvent Jean Grey, alors tout le monde est surpris. La première surprise c'est Kitty Pryde. Mais pourquoi ont-ils enlevé Jean Grey, ces soldats Shi'ar? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? Je comprends rien. Alors que franchement, tu sais...
Elle a déjà assisté au premier procès de Phoenix. Hein. Enfin moi je dis ça, je dis rien.
Ouais. Elle était là déjà, Kitty Pryde. Mm-hmm.
Elle arrive juste avant la Hellfire Saga et la Dark Phoenix Saga, Kitty Pryde.
Ah d'accord. Et donc voilà, donc déjà la nana d'un seul coup elle sait plus quoi. Enfin voilà, elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Et donc d'un seul coup on voit les Gardiens de la Galaxie qui débarquent. Alors ils pensent que c'est les Shi'ar qui reviennent déjà à l'assaut. Et donc t'as une superbe splash page par contre par Immonen qui nous fait des Gardiens de la Galaxie génialissimes. Et Star-Lord qui dit « Nous sommes les gardiens de la galaxie et nous sommes là pour... » Ah ben, on arrive trop tard. Et voilà, et ça se termine là.
Sans déconner.
Ouais. Sans déconner.
Ah ouais.
Voilà, avec cette bonne petite vanne, tu vois, du mec qui arrive en retard en se la pétant, quoi. Donc c'est vraiment du comics widescreen. À la rigueur, tu vois, au cinéma, ça passerait vachement bien. Seulement, on n'est pas du tout au cinéma, quoi. On est quand même en train de lire un comics, puis c'est super mince, quoi. Donc bon, j'ai dire un check-it, quoi, parce que il y a les dessins d'Immonen, mais il y a rien, quoi, là-dedans, quoi, quasiment. Tu lis ça en 5 minutes, même pas.
Comme la galaxie, c'est vide.
Enfin, la galaxie Marvel, je sais pas si elle est si vide que ça, hein, à force. Elle se remplit bien. Hein. Il y a des frites partout. Il y a des trucs bizarres. Il y a des planètes qui parlent et qui chantent. Bref.
Ça va avoir un petit clin d'œil à FF, ça, je pense.
Ouais, ouais. Non, même pas. D'ailleurs, il y a pas de planète qui chante dans FF.
On saurait plus, hein. Franchement,
ça aurait été drôle. J'imagine bien une planète qui chante à la fin.
Moi, tu sais, je vois bien Ego arriver et se pousser la chansonnette. Hein.
Ouais. Avec un accordéon. Mais comment fait-il? Bon, enfin bref,
c'est
donc,
le secret d'Ego.
Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux effectivement parler d'autre chose que de parler de ça. Ce sera ma conclusion. Voilà.
Donc passe.
Ben non, je dirais check it parce qu'il y a Immonen, quoi. Il fait tellement du bon boulot, mais il est vraiment pas récompensé. Hein. C'est vraiment pas. Il se fait chier pour pas grand chose en fait.
Eh bien, la suite, la semaine prochaine, puisque le Guardians of the Galaxy qui poursuit cette histoire sort la semaine prochaine, tout simplement.
On a hâte.
Avec le numéro 11, point now.
Ouais. On a hâte. Ce sera une discussion, tu sais, est-ce qu'il faut y aller, faut pas y aller, ah mince, j'ai oublié la direction.
La suite, c'est les Mighty Avengers numéro 5, qui sera mon coup de cœur de la semaine. Un petit coup de cœur, en fait, hein, vraiment pour en choisir un. Scénarisé par Al Ewing avec des dessins de Greg Land, donc créé par Jay Layston, bien sûr. On avait quitté les Mighty Avengers à la fin du numéro 4 avec Spider-Man qui arrivait accompagné de ses minions et de ses Spider-Robots.
Ils sont mignons.
Qui appelait Cage à sortir de son bureau de Heroes for Hire. Enfin, en tout cas des Mighty Avengers, mais Heroes for Hire, enfin, voilà. On sait pas trop ce que c'est encore, en lui disant je t'avais dit que je reviendrais pour te demander la direction de l'équipe, eh bien sors que je te pète la gueule. Pendant que le reste de l'équipe va sur ce vaisseau, enfin des restes de ce vaisseau Attilan, enfin de la cité Attilan qui s'est écrasée dans l'Hudson River, avec cette garde du corps du PDG de Cortex qui veut récupérer des artefacts, des choses inhumaines pour le compte de sa société, essayer de se faire un maximum de pognon en faisant de la rétro-ingénierie dessus. Et bien sûr, Ronin, ce personnage qui, on va garder l'identité secrète pour ceux qui n'auraient pas découvert qui c'était, on sait bien plus qu'il veut bien nous le dire, et c'est que 3-4 démons vont arriver sur Terre et cherchent des artefacts magiques, dont le troisième est un des plus puissants qui est dans ce vaisseau et qui peut contrôler les gens. Bref, grosse baston à tous les étages. D'un côté, Jessica et Luke Cage qui demandent à ce qu'on s'occupe du bébé, l'emmener chez la babysitter pour ensuite exploser la face à Spider-Man, parce qu'ils en ont vraiment ras-le-bol de ce Spider-Man de merde. Et donc là, ça va partir. Surtout qu'ils auront l'aide d'une alliée assez précieuse qui a une double casquette assez intéressante dans l'univers Marvel et qui va bientôt refaire une apparition dans sa propre série. Là, c'est quand même assez facile à trouver.
Ouais.
Et puis, bien sûr, le reste de l'équipe des Mighty Avengers qui est aux prises avec cette espèce de démon et cette garde du corps qui a un pouvoir inhumain, c'est de pouvoir ralentir le temps. Enfin, le modeler à sa convenance, le ralentir ou l'accélérer. Franchement, moi, je trouve cette série toujours fun, servie par des dessins plutôt sympas. On aime ou on n'aime pas Greg Land, c'est peut-être très statique, c'est très figé, mais ça fait franchement le job pour cette série. Et c'est une série qui, n'a pas la prétention d'être pompeuse comme fait les séries d'Hickman, qui est juste fun, et ça marche. Ça marche. D'ailleurs, pour ça que c'en est mon coup de cœur de la semaine. J'ai encore envie d'aller voir l'épisode suivant, et voilà, c'est une série qui me plaît, qui me convainc. J'espère qu'elle va continuer. Qu'on la laisse dans son petit coin, faire ses petites histoires qui n'ont pas la prétention de vouloir modifier l'univers Marvel, mais qui le font bien en tout cas.
Oh, c'est beau. Et Steve, il aime bien que ça fasse le job.
Donc pour moi, ce sera un bail, vous l'aurez compris, puisque c'est mon coup de cœur de la semaine. Et on va passer à Bruno qui va nous parler de totalement autre chose, d'un tout autre univers, une nouvelle série qui démarre et qui est prévue en plusieurs séries. Ça s'appelle Empire of the Dead.
Ouais, tout à fait.
C'est chez DC.
C'est chez Marvel, c'est écrit par George Romero et dessiné par Alex Maleev. Et donc c'est dans le même univers qui est cher à Romero et qui concerne tous ces zombies, donc qui avait été commencé avec Night of the Living Dead et qui s'est terminé avec quelques films direct ou DVD pas terribles. Donc là du coup il a les mains libres pour faire un comics avec sans avoir à s'embêter avec les moyens techniques et la thune pour faire ses films. Donc du coup il peut se permettre des choses un peu plus grandiloquentes. Et c'est vraiment une bonne surprise ce titre. C'est vrai que le fait qu'il ait comme dessinateur Alex Maleev, qui est quand même très en forme je trouve sur le titre, ça donne vraiment du cachet à ce comics. Alors le pitch, ça se passe à New York, bien sûr il y a l'invasion zombie qui a eu lieu, et on va suivre une jeune chercheuse qui s'amourache un peu d'un soldat qui est chargé de récupérer des zombies pour pouvoir les faire concourir dans des sortes de jeux du cirque, comme on avait pu voir dans le Day of the Dead, qui était sorti au cinéma, je sais pas si tu l'avais vu, Benny, où il faisait des sortes de jeux avec les zombies.
Non, j'en ai loupé plein, mais il était sorti au cinéma celui-là.
Ouais, il était sorti au cinéma celui-là.
Bah, je crois que c'est le dernier d'ailleurs qui est sorti au cinéma.
Ouais. Et qui était pas trop mal.
Qui était mal, avec une fin qui changeait le mythe du zombie façon Romero.
Un petit peu, ouais, voilà, c'est ça.
J'espérais qu'on reparte là-dessus un peu, moi. Par contre.
Non, là, c'est vraiment autre chose. Hein. D'ailleurs, il y a une grosse surprise. Enfin, si on a lu les sollicitations, on n'est pas surpris, mais...
On en avait déjà parlé dans les Comics Weekly. Pardon.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, quand on a lu les sollicitations, après, il y a quand même un truc qui change. Mais du coup, cette nana essaye de prouver que les zombies ont quand même encore des capacités mentales, des choses qui avaient été aussi... il avait tenté de faire ça aussi quand il avait travaillé avec le chercheur dans Day of the Dead. Et donc il garde vraiment le même genre de préoccupation, tout en ayant toujours cette critique sociale, puisque là on se retrouve avec un New York avec une zone qui est dirigée par les riches, qui vivent à l'écart des zombies, et en fait les riches auraient peut-être un secret qu'on découvre vers la fin du comics.
Je sais ce que c'est. Ils ont de l'argent.
Oui, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont aussi peut-être d'autres capacités. Et ce qui est amusant, il y a un petit clin d'œil, c'est que l'héroïne, en fait, on se rend compte que c'est peut-être la sœur, en fait, de Barbara, de Night of the Living Dead, en fait, puisqu'il y a tout un flashback qui reprend Night of the Living Dead avec cette fameuse femme qui perd son frère dans un cimetière et qui après se réfugie dans une maison. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça pour les amoureux du genre. Et donc voilà, donc c'est une bonne surprise. Et il me tarde de lire la suite, même si je sais vraiment pas vers quoi ça va aller à cause de ce petit twist justement à la fin. Mais en tout cas, c'est bien que Marvel publie ça, puisque c'est vraiment pas du Walking Dead. Hein. Là, c'est vraiment l'ambiance des films de Romero. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc pour moi, c'est un bail.
Donc je rappelle que ce sera une suite de mini-séries. Normalement, c'est prévu en 3 mini-séries en 5 parties. Si les plans n'ont pas changé, en tout cas.
Ouais, bah si le succès est à la clé aussi, hein, parce que je pense que...
Effectivement, ouais, c'est vrai que si ça vend que 5000, je pense que Marvel arrêtera les frais très vite. Romero ou pas Romero. Oui. Passons à toi, Benny, qui va nous parler du deuxième numéro, et oui, déjà, encore une fois, un numéro sorti il y a 2 semaines, de All New X-Factor.
Alors, donc on retrouve Peter David au scénario, et puis notre ami dit Giandomenico au dessin, Carmine, dit Giandomenico. Donc c'était Gambit, Polaris et Quicksilver, rappelez-vous, qui infiltraient une espèce de deal sur laquelle un docteur faisait des expériences sur des mutants, apparemment.
Docteur Moreau.
Et en tout cas, c'est pas Docteur Moral.
Putain. Voilà. Sur ce, je décide de couper mon micro et de partir.
Voilà, exactement. On va laisse-nous terminer en duo, mais ensemble, en toute intimité. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Rappelez-vous, s'ils avaient été envoyés par cette espèce d'individu des industries Serval, Serval Corporation, on sait pas trop ce que c'est. Qui soi-disant n'est pas du tout régi par le gouvernement et qui est au fait une société qui s'occupe de faire le bien, voilà, en gros.
Et qui, vu le logo, on dirait qu'il fabrique des chaussures. Des chaussures Puma.
Oui.
C'est le genre de logo, effectivement.
C'est pour ça qu'ils ont choisi Quicksilver, bien sûr, comme l'un des représentants.
Exactement.
Parce qu'on court vite avec ça. Voilà, c'est petite blagounette, cadeau. Et donc
c'est gratuit, prenez-en.
C'est pas très bon.
Et
gratuit.
L'épisode m'a un peu déçu, je dois dire, parce que donc le grand méchant se transforme en grand méchant, vraiment, en une espèce de créature d'énergie. Voilà. Il y a toujours quelques petits gags, mais globalement, Peter David réintroduit 3 personnages que j'avais totalement oubliés. Au fait, je sais même plus qui c'est ces 3 persos. J'ai toujours pas trouvé. Apparemment, ils ont un contentieux.
C'est pas du tout la même chose en plus.
Contentieux avec Quicksilver.
Et vice versa.
Voilà. J'ai pas été aussi intéressé que lors de la première, le premier numéro, quoi, qui m'avait vraiment bien fait marrer. Là, il y a beaucoup moins de dialogue, faut dire, c'est plus orienté action. Donc voilà, aussi Peter David, moi j'aime bien lire ses arcs, d'un seul coup, quoi. En fait, je lisais très peu X-Factor épisode par épisode auparavant, donc c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai moins apprécié cette lecture, mais ça reste très très bon, hein. Ça reste très correct, quoi. Je suis le seul à avoir lu, hein, je crois.
Oui.
Donc ce sera un petit bail. Il n'y a pas vraiment de cliff non plus à la fin, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Ça se termine sur une petite réplique de Gambit, voilà, ça fait sourire, mais on sait pas du tout où on va partir à partir de là.
Je viens de feuilleter un peu les personnages, effectivement, oui, ce sont des personnages un peu plus obscurs. Hein.
Bah, tu vois qui c'est, au fait, les 3 ?
Je vois certains, oui. Ça remonte à loin.
C'est pas des
années
néo,
90.
Là,
je... Ou alors c'est peut-être moi qui confonds, mais je pense que c'est plutôt des ennemis des années 90.
Ah, peut-être, non, mais c'est bien possible. En tout cas, ils ont une dent contre Quicksilver qui les a butés, d'après ce que j'ai compris à l'époque.
Ouais. Je t'avouerai que le premier run de Peter David sur X-Factor, je l'ai lu il y a très longtemps. Il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire quand même.
Non, mais ça doit dater de ça, effectivement. Voilà, donc un petit bail.
On va terminer par un autre truc qui était sorti il y a 2 semaines. Hein, décidément, Marvel a décidé de nous faire des doubles doses hein, pour toutes les nouvelles séries sorties en janvier. C'est Origin 2, numéro 2. Alors là, attention, désastre. Franchement, c'est peut-être ce que j'ai lu de plus mauvais cette semaine.
Oh putain, comme c'est étonnant. Qu'est-ce que je vous avais dit lors du premier épisode? Alors là, je bois du petit lait. Hein. Attends, là, je m'assois, là. Vas-y, parle-moi.
Kieron Gillen est au scénario, Adam Kubert est au dessin. Et
c'est tout.
Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Pas grand-chose de plus. On se rappelle que dans ce premier épisode, quasiment sans parole, Wolverine avait explosé un ours polaire. Et on découvrait sur la dernière page, oh, mon Dieu, que ce ours polaire avait un petit collier où il y avait écrit Essex. Oui, Nathan Essex, hein, pour ceux qui ne suivent pas et qui ne connaîtraient pas du tout l'univers des X-Men, non. C'est Mister Sinister. Et non, oui, c'était... nous sommes avec Kieron Gillen.
C'était E-E-T.
Et loin sexe
parce qu'il aime bien ça l'ours.
Oui, nous sommes avec Kieron Gillen et donc bien sûr avec Kieron Gillen, on met Sinister partout. Rappelez-vous son run sur Uncanny X-Men, il y avait Sinister tout le temps. Un Sinister d'ailleurs que je n'aime pas trop, un Sinister très victorien, trop forcé justement. Et bien là, on va avoir
tant
Sinister.
Tant que c'est pas un Sinister victorieux.
Mais il le sera peut-être à la fin de ce premier épisode, enfin de ce deuxième épisode, mais premier épisode où il apparaît, Essex qui décide de retourner voir son expérience, cet ours polaire, puisqu'il a appris qu'il s'était fait exploser.
Non, c'est Perience, son ex.
Oh putain, mais...
Non mais c'est... Venir. Faut arrêter là, parce que déjà que la review est super chiante à faire, parce que l'épisode était pourri, alors si en plus c'est coupé comme ça, c'est horrible. Et pendant ce temps-là, un autre groupe décide d'aller voir le résultat du massacre et engager un tracker. Et ce tracker n'est nul autre que... Sabretooth.
Ah, comme c'est original.
Sabretooth, Essex, Wolverine. Franchement,
Tu trouves qu'il est sexe?
Est-ce que vous croyez vraiment à cette rencontre qui s'est passée avant tout, vraiment, comme je disais tout à l'heure, la rétro-continuité, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, surtout avec Wolverine. Arrêtons d'en ajouter. Ça sert à rien.
Il va perdre la mémoire.
Ça sert à rien. On avait quelqu'un qui nous avait fait Wolverine Origins, qui était censé nous révéler un petit peu tous les souvenirs de Wolverine. Bizarrement, ce souvenir-là n'était pas remonté à la mémoire. Comme c'est étrange.
Bon, on avait surtout une première série, hein, Origins, qui était vachement bien. Et là, mais quelle sombre merde. Et dès le premier, j'avais trouvé ça tout pourri. Je m'étais dit, non, c'est pas possible. Et j'ai bien fait de... Moi, je n'irai pas à la suite. Hein. Je n'irai même pas cette série. C'est de la merde.
Et oui.
Ah, c'est
et
peut-être
donc,
le petit coup de mou avant que ça redevienne bien.
Non.
Enfin, un coup de mou au deuxième épisode sur 5, putain, quoi.
L'Origin, Bruno, l'Origin, et tu verras que c'est un petit chef-d'œuvre, et que ça, c'est une sombre merde à côté.
Et oui, on apprend aussi que Nathan Essex avait déjà des maraudeurs à l'époque. Et oui. Bref, non, franchement, ennuyant. Certes, c'est graphiquement plaisant, mais c'est ennuyant, et moi, je peux pas, quoi. La rétro-continuité, j'en ai ras-le-bol. Marvel ne sait faire que ça. C'est vraiment fatigant à la longue. Faites-nous des histoires qui avancent plutôt que des histoires qui reculent, quoi. Ben, je sais pas.
Sinon, comment veux-tu?
Donc, vous l'aurez compris, check it moins, quoi. À la limite, avec le pass. Parce que ça reste joli à voir. Et puis alors, cette fin. On peut pas faire pire.
D'accord, Wolverine, ça rattrape pas le truc.
Wolverine est capturé, et devinez ce qui va lui arriver. Nous sommes au début du siècle dernier. Qu'est-ce qu'on faisait avec les gens bizarres au siècle dernier?
On les lobotomise.
Mieux que ça encore. Beaucoup plus classique.
Oui, ouais, on va pas le dire, c'est du spoil, mais oui, on voit le truc.
Ouais, voilà. Bref, check it moins, la limite passe. Nous allons aller maintenant vers l'indé. On va commencer avec toi, Bruno, qui va nous parler d'une nouvelle série chez un petit éditeur, Arcaïa, s'appelle Activist.
Hack, oui,
comme hacké.
Hacker.
Comme un pirate.
Effectivement,
quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est une série qui est créée par Samantha Micheli, à savoir Alyssa Milano. Donc, le truc un peu what the fuck.
Attends, j'ai pas... Quoi?
C'est Alyssa Milano qui a créé cette série. Donc l'actrice qu'on a
oui,
pu
non,
voir.
Oui, parce que tu la présentes en tant que... je comprenais plus rien.
Mais moi non plus, je croyais que c'était Alyssa Milano.
Je vous ai perdu. Mais donc c'est elle qui a créé le concept, mais elle n'a pas écrit le comics. Le comics est écrit par Jackson Lansing et Colin Kelly, et c'est dessiné par Marc Husto, un très très bon Marc Husto. Donc Arkaya qui se relance un petit peu dans le single parce que jusqu'à présent ils faisaient beaucoup de graphic novels et là ils ont depuis le rachat par Boom ils se sont dit on va retenter un petit peu notre chance dans le format single et bien leur a pris parce que c'est vraiment une très très bonne surprise ce titre qui vogue un peu sur l'actualité puisqu'on a des histoires de révolution un petit peu dans les pays arabes et puis justement de l'implication des hackers pour donner un peu de liberté sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc c'est des hackers qui sont localisés aux États-Unis qui aident une nana qui est en Tunisie à justement permettre de diffuser des messages pour que la population se révolte. Et en fait après on apprend à connaître ces hackers qui sont en fait deux amis. Et ces deux amis sont les patrons de la plus grosse organisation technologique du monde, qui a créé une sorte de Facebook, mais sans tous les mauvais côtés de Facebook. C'est-à-dire que c'est 100% vie privée, mais en même temps réseau social. Donc il y a toute une keynote à la Apple qui est dans le comics, qui est plutôt sympathique et bien bien fichue. Et on va découvrir ces deux persos qui ont des caractères assez assez différents. Il y en a un qui est un peu plus posé, l'autre très aventurier.
J'avais éteint mon micro, mais le du coup, j'ai parlé dans le vide. Mais franchement, réseau social et super axé sur la vie privée, c'est complètement antinomique.
Alors c'est un peu antinomique, mais justement ils essayent de l'expliquer. Ils essayent d'expliquer comment ça marche, que tu possèdes ta vie et tout, mais que y a des moyens de pouvoir rencontrer des gens qui pourraient t'aider. Dans ta vie, quoi. Et mais c'est plutôt bien amené. Après, voilà, c'est peut-être pas, faut pas chercher trop la petite bête, mais on voit ces deux persos et le récit en fait, il se tourne vers une autre histoire vers la fin quand un personnage mystérieux vient parler avec un des patrons de cette boîte et on se dit voilà, il va y avoir un petit côté un peu plus espionnage qui va se lancer. Vraiment une bonne surprise et de très très bons dessins. Je le répète, hein, Marc Husto, vraiment très bon. On a un comics de qualité, sans publicité, avec une grosse couverture bien bien sympathique, avec un bel effet en plus, donc un bel objet pour 4 euros. C'est du beau boulot et c'est une mini-série qui sera en 4 numéros. Donc j'espère que ce sera pas trop trop rapide, que ça pourra quand même développer un petit peu cette histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon gros bail.
Après, avec Arcaïa, il est possible qu'il y ait des suites aussi, hein.
Bah peut-être oui, si ça marche bien, ouais, enfin, en tout cas, les persos sont intéressants dans le premier numéro.
Puis bon, ils ont deux noms qui font vendre. Alors, Lisa Milano peut faire vendre, même si dans le milieu comics,
Pas
beaucoup
trop.
moins. Mais par contre, Marc Husto, ouais.
Ouais. Bah, j'espère qu'il est sur les quatre numéros, j'ai pas fait gaffe, mais en tout cas, c'est vraiment cool.
Continuons avec Benny qui va nous parler d'un autre numéro 1, c'est Deadly Class.
Par Rick Remender à l'histoire et Wes Craig au dessin, avec Lee Loughridge à la couleur, à la colorisation, et Pat Le Guen à la réalisation. Voilà, je pouvais pas m'en empêcher, je suis désolé, c'est des pulsions comme ça. Donc on retrouve enfin on retrouve pas, on assiste à la.
Découvre.
On retrouve cette série pour le premier numéro, oui.
On retrouve cette série qu'on avait vue sur les sollicitations. Voilà, exactement.
Je vais te pourrir la review, hein, comme tu m'as pourri Origin.
Bah comme tu veux, hein.
Non,
de toute
je
façon,
plaisante, je plaisante.
Ce sera Rick Remender qui pâtira de ça. On voit au fait, on suit un petit peu les traces d'un jeune homme dont la vie a très mal tourné puisqu'il est à la rue. Voilà, il est un petit peu, il vit un petit peu au jour le jour. Il est dans la détresse, dans la misère.
Putain, l'enculé, il a fait un comic sur moi.
Sans domicile fixe. Hein.
Non, mais il a, c'est pire que toi, Steve. Pire que toi.
Ah bon?
Si c'est possible. Si c'est possible.
Wow. Non, parce que personne ne le sait, mais j'enregistre dans un carton, en fait.
Mais on voit en tout cas le décès, donc par exemple des parents de ce gamin qui est juste. Mais enfin, faut avoir l'idée, quoi. Enfin, tu vois,
c'est juste. C'est horrible.
C'est juste incroyable. Ensuite, on le voit donner mes chaussures, d'ailleurs, à un pauvre sans-abri. Le truc, en fait, au début, on se dit, mais où ça va cette histoire? Voilà, donc il est vraiment dans la misère. C'est assez déprimant, ce comics. Et d'un seul coup, ça prend un tournant pas possible. On voit qu'il est poursuivi par la police et il est aidé apparemment par certaines personnes, dont notamment une mystérieuse jeune femme tatouée, un peu bizarre, un peu étrange quoi en fait, on va
ouais,
dire.
pas
On sait pas
bizarre.
trop ce qu'elle veut. Non, mais enfin, on sait pas trop ce qu'elle veut, quelles sont ses
Oui,
intentions,
ça
pourquoi
c'est
elle
sûr.
l'aide, etc.
Est-ce un tatouage de dragon?
C'est un tatouage de dragon, oui, sur le bras,
De fleurs.
enroulé,
Et de
enfin voilà.
dragon,
C'est...
oui.
Non, mais bon, c'était bon. C'était une référence à autre chose. C'est pas grave. Personne l'a vu.
D'accord, mais en tout cas, c'est des
Chevalier du
tatouages à la
Zodiaque, Shiryu?
CM Punk, quoi, pour
Ah
ceux
bah,
qui...
The Girl with the Dragon Tattoo, quoi. Enfin,
Oui.
c'était. Voilà.
Ok.
Oh, le fail, quoi.
Et donc,
Putain.
bah, en fait, on assiste à toute une poursuite, une course-poursuite entre ce jeune homme, cette nana qui vient le sauver, et puis la police. On sait pas trop ce qu'elles veulent à ce gamin. Et d'un seul coup, il se retrouve dans une espèce d'école, ou en tout cas un truc super underground pour former des ninjas. Il rencontre
Faut
un
pas,
maître
ouais.
sensei qui lui fait tout un pitch sur comment ça va se passer si jamais il accepte de rejoindre cette organisation.
Est-ce que le mec ressemble à celui de Karate Kid?
Oui, un petit peu, je pense. De toute façon, il a vraiment une tête de sensei. Comme on peut en voir dans toutes les histoires, enfin vraiment, c'est vraiment le cliché même quoi. Et donc voilà, ça devient de plus en plus, on va dire, on tombe de plus en plus dans le surréalisme quoi dans cette histoire, ça devient complètement dingue. Bah alors, faut voir où ça va aller parce que j'ai trouvé ça sympa, mais en même temps assez classique. Je veux dire le coup du mec. Qui se fait recruter par une espèce d'organisation souterraine. Bon, c'est pas nouveau. Voilà, c'est sympa, mais j'avais plutôt l'impression de, tu sais, quand tu mates un film comme ça, une espèce de film de série B, où tu te dis, tiens, c'est quoi ce truc? Et puis finalement, tu mates du début à la fin, en mangeant tranquille devant ta télé. Bah là, j'ai eu un petit peu cette impression, quoi. C'était sympa, sans plus. Pour autant, j'ai pas spécialement envie d'aller lire la suite. Si j'ai lu la suite, pourquoi pas, mais je veux dire, voilà, c'est pas, j'en sens pas ex excessivement le besoin.
En
Parce
revanche,
que...
toi, Bruno, c'est pas du tout ton avis, parce que toi, c'est ton coup de cœur.
Ah, moi, c'est mon méga coup de cœur de la semaine, hein. J'ai
Ouais.
pris un pied pas possible en lisant ce comics. Déjà, je trouve la narration excellente. On a justement tout ce personnage principal. Enfin, déjà, on n'a pas précisé que l'histoire se passe en 1987, donc c'est les années
Ah
80.
bah, Karate
Donc
Kid, quoi!
voilà. Donc c'est vraiment l'ambiance, c'est les années 80. Donc on a des personnages vraiment qu'on voit plus de nos jours, les punks, le mec un peu rockabilly, les trucs un petit peu vraiment typés années 80 au niveau du
Off.
look et tout.
Bah je trouve pas. Justement, je
Ah,
trouve
si.
pas. Je trouve non. Enfin, je trouve pas aussi bien d'un point de vue vestimentaire que le reste. J'ai oublié même que c'était les années 80, tellement
Attends,
ils ont des trucs quoi.
regarde le
Non.
casting des personnages sur la couverture, quoi. C'est vraiment les années
Ah ouais,
80.
non, mais sur la couverture, mais dans l'intérieur, je t'assure que à part quelques persos qui ont des fringues très typées années 80, tu peux encore voir des gens comme ça maintenant. Je veux dire, le mec, il a mes chaussures, clairement.
Ouais,
Il
mais
a
attends, mais c'est normal, c'est des Converse. Les Converse, ça existe depuis 50 ans.
oui,
Puis un retour
d'accord.
à la mode des chaussures des années 80 aussi aujourd'hui,
Voilà,
clairement.
Mais
Non, mais
en fait, c'est pas ça
enfin
qui est,
au
c'est pas ça
modèle
qui est
que l'on
important.
faisait dans les années 80, pas aux chaussures des années
Enfin, moi,
80
ça m'a pas
qui.
frappé, quoi. Et puis, un graphisme très très indé, quand même. Très très indé. Donc, toi, je sais peut-être que t'apprécies plus ça,
Ah,
mais moi, j'ai.
c'est pas, moi je l'appelle pas ça indé, j'appelle ça sublime, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé ça,
Ah bon, bah,
j'ai trouvé
carrément.
ça d'enfer, quoi. Enfin, c'est la mise en page, les dessins, le dynamisme, l'inventivité, j'ai trouvé ça excellent. Et donc déjà le personnage, ils arrivent à nous le rendre sympathique. Alors c'est quand même un gars qui a eu un passé assez trouble. Il était dans une maison de garçon où il a dû mal tourner après justement un drame qui a touché sa famille.
Bon
Il
non,
a
ils nous le rendent
fui.
sympathique parce que c'est pathétique. Tu prends, tu tout de suite t'es pris de tristesse pour ce gars-là. Je veux dire, tu peux pas trouver qu'il est méchant ou il a pas, enfin je sais pas. Moi
Non, mais justement, c'est pour ça, je trouve qu'on s'attache au personnage, et
Ah oui, mais
c'est
enfin
plutôt
c'est
bien
normal.
amené. Et il y a
Enfin,
tout
c'est
ce
pas un tour de
côté,
force, quoi.
justement, avec le fait qu'il est surveillé et qu'il pense qu'il y a des gens qui l'observent, qui est un petit peu en fil rouge. Et il y a un gros mystère par rapport au fait de pourquoi il est poursuivi par la police. Et puis alors le casting de jeunes qui sont justement dans cette école est vraiment vraiment sympa. Il y a un petit peu tous les styles de personnages et les scènes d'action. Enfin la poursuite, elle est vraiment hyper bien mise en scène. C'est excellent quoi. Et voilà, c'est bien écrit. On sent que vraiment l'auteur il y met vraiment de lui-même pour pouvoir raconter cette histoire. Il est bien aidé par les dessins. Je sais pas si tu as lu si tu as lu la lettre à la fin de Rick Remender, mais ce mec, en plus, il a vécu son enfance un petit peu dans ce même genre de milieu, et il nous parle de la violence qu'il a croisée entre le mec son ami qui s'est fait tuer en face de lui. Il a vu un mec se prendre une balle dans la tête à bout portant. Il a un de ses amis qui est mort d'une overdose d'héroïne. Enfin, il y a tout ce côté un petit peu trash et glauque qu'il a eu envie un petit peu de présenter dans ce comics, et de raconter un peu sa version des années 80. Et c'est vrai qu'il y a un côté comics à la fin avec cette école d'assassins qui sort un petit peu du réalisme, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça passionnant et il me tarde vraiment de découvrir les autres persos et de voir vers où ça va aller parce que c'est vraiment sublime, quoi.
Bah moi j'ai pas lu du coup cette lettre donc de Remender, mais moi tout ce que je reproche à ce comic, c'est que l'histoire je l'ai pas trouvée très originale au fait. J'ai déjà lu des trucs comme ça. Puis tu parlais de la mise en scène, j'ai pas vu une mise en scène extraordinaire. Je me suis pas dit ah putain je suis bluffé par cette mise en scène. Je sais pas, je suis pas voilà, j'ai pas été émerveillé comme toi. Pour moi, c'est un petit peu du déjà vu, aussi bien graphiquement que scénaristiquement parlant. Donc voilà, ça me laisse. Je trouvais ça sympa, mais pour autant
Bah vous nous
assez commun.
départagerez dans les commentaires, chers
Je viens d'y
auditeurs.
jeter un œil là pendant que vous en parliez. Par contre, je trouve que le sensei ressemble pas du tout à celui de Karate Kid, mais plutôt, on dirait le méchant de Little Trouble in Big China. Non, Big Trouble in Little China, pardon, j'ai inversé les mots. Enfin, ce qui s'appelle en français les
Jack
aventures
Burton.
de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Il me faisait plus
Ouais.
penser à ce personnage-là que le sensei de Karate Kid.
Ouais, en tout cas, oui, bon, il fait aussi penser au maître de Shiryu, enfin, je sais pas, l'espèce de petit gars, avec la petite barbe et tout, enfin, le sensei, quoi.
Bon, moi j'ai envie de conclure en disant Everybody was kung fu fighting, quoi.
And everybody was kung fu
Ce qui est quand
fighting.
même vraiment d'époque.
Pardon.
Donc, Bruno, pour toi, c'est clairement un gros bail, c'est ton coup de cœur de la semaine,
Ah bah
Benny?
oui, carrément.
Pour moi, ce sera un petit bail à la limite du check-it, on va dire, essayez-le, voilà, essayez-le et vous ferez votre propre opinion.
Rappelons que c'est sorti chez Image, on ne l'avait pas précisé,
Ah oui?
au prix de 3,50 pour un premier épisode qui est un peu plus gros qu'un épisode classique. On continue et on termine notre partie indé avec toi, Bruno, qui va nous parler de X-Files Conspiracy Ghostbusters.
Ouais, je vais aller un petit peu plus vite. Donc c'est écrit par Eric Burnham avec des dessins de Salvador Navarro. Donc c'est dans ce fameux crossover qui va
Ah,
faire
des
ce.
Navarro chez X-Files, c'est normal.
Oui, il parle la langue des Navajos et puis voilà. Mais c'est un crossover où justement les Lone Gunmen vont rencontrer un petit peu toutes les franchises d'IDW, que ce soit Ghostbusters, Transformers, The Crow et compagnie. Et tout ça parce qu'il y a un mystère en fait qui tourne autour du CERN et des particules de Higgs qui ont permis de transiter des informations à travers le temps. Donc c'est un truc un peu barré. Et en fait, du coup, ils ont reçu des coupures presse parlant des fameux Ghostbusters qui sont à New York, et ils pensent que ce sont en fait des gros arnaqueurs. Donc ils décident d'aller enquêter et peut-être d'aller leur demander pourquoi ils ont reçu ces informations sur eux sur l'ordinateur. Et donc on a droit à des scènes assez sympathiques des Lone Gunmen qui arrivent au QG des Ghostbusters, qui rencontrent Janine, toute l'équipe, et qui bien sûr foutent la merde avec
Génial.
la Janine. Ils foutent la merde en libérant un poltergeist. Et donc voilà, c'est plutôt coolos, c'est amusant de voir les Lone Gunmen dans cet univers, c'est vrai que ça fait bizarre. Au niveau des dessins, c'est un peu trop statique, on a vraiment l'impression qu'il y a des moments. Enfin, il tient bien les personnages, c'est-à-dire qu'on les reconnaît énormément, c'est presque qu'il a tracé sur les des acteurs. Mais du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a des copier-coller de visages, on retrouve des expressions, par exemple de Froic, il a la même expression sur toutes les pages. Après, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très expressif comme mec, mais. Mais voilà, mais si, c'est. C'est sympa, il y a le pitch un petit peu enfin le fil rouge qui se développe un petit peu vers la fin, mais c'est vraiment sur juste les deux dernières pages. Le reste, c'est un peu faire du fan service. Mais bon, voilà, le prochain numéro, ils vont voir les Tortues Ninja, alors ça va être rigolo aussi, je pense. Ça, c'est, on va dire, c'est une petite, un petit plaisir coupable, un petit check-it.
Et pour un petit plaisir coupable pour les auditeurs, eh bien, nous allons leur révéler quand même que après ce podcast, nous bosons de X.
Voilà.
Je la préparais depuis tout à l'heure, il fallait que je la fasse.
Ça aurait été dommage de pas la faire en même temps, elle était tellement drôle.
C'était tellement.
Non, mais voilà. C'était vachement bien là, je me tords intérieurement.
Oh, attention, pas trop quand même. Point trop d'infos. Puisque tu as encore des reviews à faire pour cette fin d'émission. On continue avec notre partie d'essai maintenant et on commence avec un des deux poids lourds de cette semaine. C'est le Justice League numéro 27, écrit par Geoff Johns, avec des layouts de Ivan Reis qui seront terminés par Joe Prado, Jesús Merino et Vicente Cifuentes. Toujours dans le crossover... Pardon, je m'enroue. Toujours dans le crossover Forever Evil. C'est parce que c'est tellement pas bien que j'ai du mal, ça a du mal à sortir. Forever Doomed, c'est le nom de l'épisode. Et oui, parce que nous allons enfin découvrir ce qui nous a été teasé depuis maintenant plusieurs mois, la Doom Fucking Patrol. Et ouais, bon, on va aller voir sur deux pages. Hein. Rassurez-vous, ils vont clamser. Voilà, comme ça c'est fait. Geoff Johns n'a absolument rien compris à la Doom Patrol et nous la met... Enfin, nous a fait une caractérisation tellement premier degré que ça en est pathétique. On voit deux membres, Karma et Scorch. Voilà, pour ceux qui se rappellent de l'époque pré-Morrison, hein, les Paul Kupperberg, bah voilà, on l'a fait disparaître, puisque apparemment, il n'y a que la Doom Patrol de Grant Morrison qui a le droit d'exister. Donc, débarrassons-nous des personnages, hein, on nous les tease, qu'on nous les fait revenir pour s'en débarrasser aussi sec en trois pauvres pages. Surtout de manière assez graphique et horrible.
Ça, c'est dans la veine des précédents numéros, c'est vrai que c'est quand même assez trash en ce moment, Justice League.
La fin de Scorch est quand même absolument atroce, j'ai trouvé.
Ouais, ouais.
Bref, et puis on va ensuite suivre le personnage que j'admire le plus, le personnage que si je me transformais en super-héros, j'aimerais devenir Cyborg. Et surtout, si un jour ça arrive, vous me flinguez, hein. Vraiment. Mais de la pire des manières possibles, hein.
Parce que Steve redoute de devenir Black, au fait.
Salaud, je vais dire des choses que je n'ai pas dit en plus. Non, franchement,
c'est juste qu'il n'est pas intéressant, ce personnage.
Voilà, ce personnage ne sert à rien. Je veux dire, en plus, là encore une fois, gros problème de caractérisation selon moi. On a toujours donc ce cyborg, hein, qui ne nous reste plus qu'un tronc, qui est toujours dans ce labo à Détroit, cette espèce de Red Room, qui n'est pas vraiment la Red Room, on va le voir vite fait dans l'épisode. Avec son père et le docteur merde, comment s'appelle-t-il? T'es con, putain.
Docteur Silas. Non, c'est Silas, c'est son père, donc.
Thomas, le docteur Moreau, voilà.
Oui, Moreau.
Ah bah tiens, en plus, on en parlait tout à l'heure.
Maro.
Donc, il est en train de dire, bah il faut me reconstruire, et son père cette fois-ci qui pleure. Alors, on a un cyborg qui pleurait depuis le début de Justice League, parce qu'il était robotisé, qu'il était plus humain, et là, il a qu'une envie, c'est redevenir robot, mais ce changement de caractérisation est tellement soudain que ça en est inconsistant.
Oh, là, je suis pas d'accord. Enfin, moi, c'est plus son père que j'ai trouvé con, parce que il se retrouve avec un fils qui est juste un tronc et à qui il manque un bout de visage, et le mec, il veut même pas lui fabriquer un corps, quoi. Il préfère que son fils, ça reste un pauvre tronc vivant. C'est normal qu'il veuille. C'est normal qu'il veuille quand même qu'on lui foute un.
C'est bien, c'est qu'on pourra le mettre en duo avec Something.
Non, c'est vrai, mais non, c'est là. Du coup, ça me choque pas, mais c'est juste les apitoiements, le fait que ça prenne 6 pages avant que le père décide de faire quelque chose. Je trouvais que c'était pas logique. Et après, voilà, Cyborg, ça fait 5 ans qu'il est dans la Justice League. C'est normal que ce soit un héros et qu'il veuille faire quelque chose par rapport au Crime Syndicate. Mais
c'est une merde, Cyborg. Arrêtez, quoi. C'est une merde. Oh, c'est un personnage qui sert à rien à part téléporter les gens, quoi.
Bah, peut-être que maintenant il va servir à quelque chose, il y a peut-être de l'espoir.
Ouais, mais ça fait 2 ans que tu dis ça, hein.
En tout cas, il a droit à...
nous imposer ce personnage depuis le départ, quoi. C'est pour
Cyborg
avoir le
2.0
quota.
Maintenant.
C'est pour avoir Cyborg. Le quota, je pense.
Ouais, non. Là, on va voir Cyborg 2.0, ça va tout changer, il va être trop classe.
Et donc, surtout, on va nous ramener une autre franchise ancienne de DC. À la fin de cet épisode. Et bon, j'imagine que ça va être aussi pour la dégommer, aussi sec. Moi, franchement, je me suis vraiment fait chier avec cet épisode.
Je sais pas, Benny, ouais, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, pareil ou...
Bah, Steve parlait de quota, moi j'ai envie de dire, faudrait qu'ils oublient un petit peu, enfin, faudrait qu'ils vérifient le quota des persos chiants surtout, quoi, parce que ils se rendraient compte qu'il y en a beaucoup, quand même, des persos chiants, sur le nombre. Non, bah ouais, un épisode très inintéressant, peut-être à part la dernière page, voilà, la dernière page qui tease un petit peu un truc, qui pourrait être intéressant à la limite, mais je sais pas trop quoi en penser.
C'est con, les précédentes Justice League étaient vraiment pas mal, quoi.
Ça, je suis d'accord avec vous,
Bah comme
ça
quoi,
baisse,
hein, il plombe tout, hein. Dès qu'il y a du cyborg, tu sais que ça va être pourri, quoi. C'est un
Mais
petit peu...
c'était aussi. Ouais, pardon, mais c'était.
Mais dès la couverture, quoi, en plus.
Top, top, top. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, c'est vrai que ça baisse un peu parce que c'est vrai aussi que c'était des origines un petit peu des persos du Crime Syndicate, donc c'était assez intéressant. On voulait voir quelles étaient les différences avec notre monde. Là, on retourne vraiment dans l'histoire contemporaine de Forever Evil. Et effectivement, il y a du. Je trouve que c'est un gros gâchis ce qui se passe avec la Doom Patrol. Je trouve que c'est très lent ce qui se passe avec Cyborg pour en arriver enfin à un relooking extrême et peut-être du coup à un petit peu un revirement du personnage qui va avoir de nouveaux pouvoirs, qui va avoir de nouvelles capacités, qui du coup, ça sera peut-être intéressant à ce moment-là. Je trouve que le design est plutôt réussi d'ailleurs de son costume. Après
Ouais.
voilà, la fin, ouais, il y a peut-être des choses à faire, mais c'était vraiment trop décompressé pour. Ils auraient pu faire 10 pages et puis nous parler un peu plus de ce qui se passe ailleurs aussi dans Forever Evil. C'est vrai que de faire le focus que sur Cyborg, c'était un petit peu décevant. Bon. Après, moi j'étais étonné par les dessins, puisqu'il y avait on avait vraiment l'impression de voir du Rice. Donc ils ont vraiment bien bossé pour garder le maximum le fait que ce soit proche du dessin d'Ivan Rice. Et ça c'est une bonne chose. Mais bon, ça se laisse lire, mais c'est vraiment pas renversant, quoi.
Mais on en parlait lundi lors du Weekly News, Bruno. Je disais que Forever Evil, j'avais l'impression que ça faisait au moins un an que ça durait. C'est
Ouais.
avec ce genre d'épisode que ça ajoute encore plus à la lourdeur du truc, quoi.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça.
On a vraiment l'impression qu'il se passe rien. Pourtant, l'histoire avance, mais on a l'impression qu'il se passe rien, que ça pourrait être résumé en à peine 3 pages, quoi.
Ouais, surtout tu sais quand on se rappelle d'events comme Blackest Night, je sais pas Brightest Day, enfin, Blackest Night, c'est le truc, t'as de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça, y a toujours des retournements de situation. Et là, ça prend vraiment tellement son temps.
Ouais. Puis voir un cyborg qui se la joue Hulk.
Ouais, alors ça, oui, c'est vrai que c'est un petit peu ridicule. Ces 2 pages là, effectivement. Les petits bonds
Je pense que le silence de Bunny.
qui ne dit rien, qu'on sent.
C'est ça.
Ouais.
Donc, un petit check-it, moi.
Gros check-it moins pour moi.
Oh, moi carrément impasse, hein. Franchement, on peut faire totalement l'impasse sur cet épisode.
Ouais, je mets pas le pass à cause de la Doom Patrol, quoi. Même si
Ouais, ben moi
il a très très mal été
je
caractérisé.
le mets justement à cause de la Doom Patrol, puisqu'elle est tellement massacrée, d'ailleurs dans tous les sens du terme, que non.
Oui, puis c'est pas le petit espoir que l'on voit ensuite qui va nous ramener cette, enfin, ce qu'on pense pouvoir peut-être être la Doom Patrol de Grant Morrison, mais par pitié, ne laissez pas Geoff Jones l'écrire, quoi. Pitié.
Ce sera peut-être sa grande annonce au sortir de Forever Evil, hein. Moi
Ouais,
je pense que ça va être ça en
il a
plus.
plus grand chose, hein, il écrit plus grand chose.
Bah, il a dit qu'il arrivera avec une nouvelle série, mais
Bah, ce sera ça. Ah non, ce sera ça. C'est tellement teasé là que.
Ouais, ça ou Plastic Man, parce qu'il a quand même réintroduit Plastic Man aussi dans le numéro précédent. Donc.
Ouais, mais Plastic Man, il va connaître une mort atroce, il va fondre
Bah,
lentement, mais sûrement.
non, mais justement, il a déjà fondu, donc. C'est ça qui lui a donné ses pouvoirs.
Allez, passons au dernier poids lourd de la semaine de chez DC, c'est la sortie du 27e épisode de Batman, Benny.
Alors, Scott Snyder au scénario, Greg Capullo au dessin, et Danny Mickey à l'ancrage. Ben alors justement, un épisode, au fait, où c'est vraiment l'art de Scott Steiner d'arriver, Scott Snyder, putain, je me suis encore gouré, je pense, à dire, à faire que quelque chose qui est pas franchement, au fait, nouveau, qui est très commun, à de le rendre, au fait, donner l'illusion du spectaculaire à quelque chose qui est pas forcément super intéressant. Alors là, au fait, finalement, l'épisode, ça se résume assez vite. Batman est en difficulté, il se fait attaquer par la police. Le commissaire Gordon vient le sauver. Et puis, bon, il y a cette espèce de cliff aussi à la fin, voilà. Où, je vais pas révéler ce qui se passe, mais c'est assez commun, quoi, tout ça. Là-dessus, au fait, Snyder met plein de dialogues, enfin, il met les formes, quoi. Il met les formes pour que ce soit, je sais pas comment le dire, mais pour que ça se la pète, quoi. Tu vois, c'est, on a l'impression que c'est vraiment le truc, la lecture ultime, le Batman de Snyder. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment, comment dire, très très verbeux, mais aussi très très littéraire, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Steve et
à
et
la
Bruno.
Limite d'être élitiste, ouais.
Ouais. Enfin voilà, c'est
à la limite.
Bah, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même, il se passe pas tant de choses que ça.
Ouais. Je peux te la résumer encore plus simplement. Ouais. Comment Batman et Gordon sont devenus potes?
C'est ça, ouais. Comment ils sont devenus potes? Et puis alors, il y a vraiment un moment que j'ai trouvé super forcé, c'est l'anecdote de Gordon. Je veux dire. Si vraiment ça se passe comme ça chez les flics de Gotham, mais là c'est pas possible.
Mais que fait le gouvernement américain ?
Non mais c'est-à-dire que non mais même, enfin c'est pas possible, quoi. Les flics te font faire ça, tu les butes tous les uns après les autres à coup de baramine, quoi. C'est pas possible.
Non, pas la baramine, c'est interdit dans l'univers DC, c'est réservé au Joker.
Non mais enfin voilà, non mais c'est là j'avais l'impression de voir d'un seul coup un épisode des Contes de la Crypte. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce truc super trashouille, quoi? Normal. Enfin, tu vois, t'as l'impression que pour Snyder, bah ouais, mon gars, c'est Gotham, donc
c'est
ça se passe comme ça.
C'est misérabiliste, en fait. Le problème, c'est que c'est très misérabiliste, je trouve.
Bah, c'est surtout exagéré. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'à Gotham, vraiment, tout le monde est fou et que, bah, tout le monde est fou, quoi. Point. De toute façon, t'y peux rien. La police, c'est tous des salauds corrompus, qui sont prêts même à buter leurs collègues pour le fun. Puisque là, clairement, Gordon aurait pu crever comme une merde. C'était pas grave. Allez, ça serait passé comme une lettre à la poste. Oh oui, bon. Puis alors, on va pas dire de quelle manière, mais c'est, moi, j'ai trouvé ça assez ridicule, au fait, ce passage. Tellement forcé que je me suis dit, oh là là. Non, là franchement, je peux pas. Et puis, Snyder aussi, il arrive toujours à placer, tu sais, des espèces de représentations iconiques de Batman. Donc là, on a le Batman...
Quelle horreur.
Ce Batman sur le câble électrique, là, c'est bien ça dont on parle.
Non, mais Dark Knight Returns, quoi.
Oui.
Sérieusement.
Oui. En plus, aucun rapport, puisque finalement, ça se passe pas du tout à la même époque. Encore, il aurait placé cette représentation dans un truc futuriste, comme dans le numéro spécial dont on a parlé.
C'est juste un clin d'œil.
Bah, c'est juste un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil. En fait, tout ça me fait dire que, ouais, franchement, je me la pète, quoi. Je me la pète grave. Je suis le maître de Batman, du Batverse, et voilà, quoi. C'est moi qui dicte tout l'univers de Batman, parce que. J'ai l'impression non plus que ça avance pas énormément, hein, ce Zero Year. Finalement, voilà, il se passe pas tant de choses que ça. Je suis décidément pas très fan.
Surtout qu'en plus, nous n'aurons pas la résolution de cette histoire le mois prochain, puisque le mois prochain, ce sera l'épisode spécial spoiler qui va nous donner le futur que l'on verra dans Batman Eternal. Donc, ce sera dans 2 mois. Histoire de rajouter, de toute façon on le savait que Zero Year prendrait du temps, il nous avait dit que ça prendrait 11 mois, bon finalement ça en prendra 12 même puisqu'on aura ce numéro spoiler, un an pour du passé, quoi.
Bah un an, et puis finalement qu'est-ce qu'on aura appris de tout ça? Pour le moment, rien, quoi, il nous a raconté à sa sauce des choses qu'on connaissait déjà, quoi, finalement.
Ouais. Je vous trouve super négatif. J'ai du retard hein, sur Batman. Je dois avoir 4 numéros de retard, mais j'ai plein d'échos vraiment hyper positifs dessus.
Nous aussi,
comme
hein.
Quoi, c'est vraiment prenant et tout.
Tout le monde.
Enfin, je veux dire,
porte cette série au nu.
Tu nous dirais, on est les seuls de la Terre à dire que c'est pas terrible. On te croirait, hein. Parce que tout le monde, c'est ça le truc aussi. C'est-à-dire qu'on entend tout le monde dire que c'est extraordinaire et qu'il n'y a pas eu Batman avant le Batman de Snyder.
Et puis cette première page. Qui se passe en 1946.
Oui, qu'est-ce que ça vient foutre là, je sais plus.
Non, mais je sais pas, depuis le début, il essaye de semer des pages indices comme ça, mais...
Mais il nous parle aussi du truc dans le désert, à un moment donné, il y a un sous-entendu, et c'est ce que je pensais, au fait, c'est ni plus ni moins qu'un truc à la Morrison, une espèce d'expérience à laquelle a été soumis Bruce Wayne, et voilà, c'est juste... En fait, il rajoute des petits trucs, mais au fait, ça change rien, ça ne... Voilà, il y a rien de nouveau sous le soleil de Gotham.
Mais oui, serait-ce Zurena,
sous la lune plutôt.
Ce gant violet. Ceux qui auront lu l'épisode comprendront de quoi je parle.
Mais non, Zurena. Mais il l'a depuis le début de l'épisode.
Bah bon, j'ai pas fait gaffe.
Oui, moi je suis revenu en arrière. Il a des gants violets depuis le début.
Ah ouais.
Dans tout l'épisode, il a des gants violets. Non, mais il y a même pas Zoolander. Je pense que tu sais, tu vas voir des trucs. Non. Moi ça m'a fait penser à la main du Joker, tu sais, forcément, qui sort du bain d'acide.
Ah oui,
Mais
j'avais pas vu le détail des gants violets. Oh, pardon pour moi. Autant pour moi,
oui.
je veux dire.
Non, aucun pardon pour toi, Steve. La chaise électrique et puis c'est tout, hein. De toute façon. T'as
Comme à
vu ta tête,
Gotham,
hein.
quoi. Comme à Gotham.
T'as forcément tort. Qu'est-ce
Faut
que
que
je
je vous
voulais dire?
rattrape pour pouvoir voir vraiment ce que ça vaut.
Ben, pff, ouais, enfin.
Mais tu vas aimer, toi, Bruno.
Ah, mais si ça se trouve, ouais, si ça se trouve.
Bah, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, pour ceux, c'est con de dire ça, hein, ça fait un petit peu connard élitiste aussi,
Est-ce que
ou
vous
vieux
êtes?
con.
Pardon.
Non mais voilà, ça fait un peu vieux con, mais pour ceux qui ont lu Batman avant Snyder, et quand je dis avant Snyder, c'est pas 3 mois avant, hein, c'est lire Batman depuis quand même quelques années maintenant, bah, tout ça, on a déjà lu, on a déjà vu, quoi. Voilà, donc on n'a pas forcément ce côté assez génial parce que pour certains, bah oui, ils découvrent limite Batman avec les New 52 et avec Snyder. Donc forcément, c'est génial dans ce cas-là.
Le problème qui me gêne moi aussi, c'est que ça aurait dû, cette série Zero Year aurait dû être une mini et non pas nous empoisonner le titre régulier Batman pendant tout un an. Et ce qui fait que les autres séries ne peuvent pas avancer puisque comme Snyder est le maître, bah, ils sont obligés de l'attendre. Ils sont obligés de faire du remplissage pendant un an.
Ah ouais,
Parce...
du Batman et Two-Face, du Batman et sa grand-mère, du Batman et son
ils
chien.
peuvent pas vraiment avancer dans les autres
Ouais.
séries à cause de ça.
Exactement, ouais. Aussi, ouais.
C'est
Oui,
un
c'est
petit
ça.
peu dommage, quoi.
Tout l'univers semble figé. De toute façon, John Lehman a pas pu faire grand-chose aussi à cause de ça, à mon avis.
Bah, tout le monde
Et
en a fait même des tie-in à
ouais.
Zero Year. Enfin, c'est bon, on avait déjà eu les Zero Issue, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire ça, quoi.
Ouais, mais il va y avoir Batman Eternal, justement, pour un petit peu pallier à ça. On va bouffer du Batman toutes les semaines après, donc.
Ouais,
Ouais, mais encore une
mais.
fois, ce sera le Batman de Snyder, quoi, surtout, avant tout. Il vampirise Batman, Snyder. Voilà, c'est beau.
Telle la couverture.
C'est ça, c'est ça. Oui, il le vénomise, là, sur la couverture. D'ailleurs, une couverture trompe-l'œil, hein, puisque c'est pas absolument pas ce qu'on voit dans le comic.
Aucun rapport.
Aucun rapport, oui.
Non, ben moi aussi j'étais assez déçu par cet épisode, mais je suis assez déçu de Zero Year hein, depuis le départ. Pour moi, c'est vraiment trop long pour ce que ça veut raconter.
Et puis c'est ce que j'ai envie de dire, au final, qu'est-ce qu'on aura appris? Bah pour le moment, rien quoi. Concrètement.
On aura les origines définitives version New 52. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir.
Jusqu'à dans 2 ans. Comme chez DC habituellement, enfin voilà. Puis enfin, excuse-moi, mais autant Superman il changeait les origines tous les 2 3 ans, autant Batman, il n'y a pas besoin qu'on lui change ses origines. Justement, c'est le propre de Batman, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'origine propre et définitive.
Et surtout que Superman s'était justifié plus ou moins de façon méta à cause des problèmes juridiques.
Ouais, aussi. Mais je veux dire, Batman, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage, je veux dire, justement, éternel, intemporel, dans lequel tu peux toujours lire du Batman sans avoir besoin de connaître ses origines sur le bout des doigts. Donc, au fait, on s'en fout, quoi, du détail des choses. Bref.
Babylon, on est quand même deux à pas aimer Zero Year, donc
Ouais,
voilà,
donc.
j'imagine qu'on doit pas être les seuls.
Mais de toute façon, on est les deux plus forts de Comic City, dans le sens où on est les... Hein, quand même.
Bah non, mais c'est qu'on peut leur casser la gueule, quoi.
Ouais, voilà. Donc
Oh
on s'en
bah,
fout de leur
d'autant.
avis. Notre opinion compte 10 fois ce que la vôtre.
Je crois que Sam adore la série. En plus, ça se trouve, Sam, il est hyper baraqué, il fait de la muscu et tout. Bah, il va vous détester.
C'est marrant parce que quand tu dis ça me fait rire.
Check it, pour moi.
Je t'emmerde. Oui, bah moi un petit check-it, ouais.
Ou pour on en est, faut continuer, quoi.
Bah il y a surtout le graphiquement, moi j'aime toujours ce que fait Capullo par contre.
Oui, non, mais oui, c'est propre, la mise en scène est propre. Moi, je reste pas fan de son Bruce Wayne, mais ça, c'est depuis le départ. Je n'aime pas la tête qu'il a donnée à Bruce Wayne, mais c'est depuis le Batman numéro 1.
Oh bah là je
Ça
l'aime encore moins, oui. Il a une tête
changera
de...
pas, de toute façon,
Je le
ça
reconnais
changera
plus
pas.
là Bruce Wayne ces temps-ci, mais
Oui,
bon.
mais bah, c'est normal, avec ses cheveux rasés.
Ouais.
Mais moi, j'ai jamais aimé la tête qu'il donnait à Bruce Wayne. Par contre, son Batman est superbe.
Enfin voilà.
Bon, bah, ça conclut notre partie
Ah.
d'essai. On va terminer avec notre partie TPB. Très peu de choses à se mettre sous la dent cette semaine. Encore une fois, un mois de janvier assez calme finalement au niveau TP. On commence avec du Dark Horse qui nous sort la suite des Eerie Archives. C'est le volume 15 en hardcover. Bien sûr, ça vaut $50. Hein. Ce sont des gros produits assez chers, mais aussi très luxueux, avec les épisodes, enfin les magazines numéros 70 à 74 qui sont réimprimés dans ce hardcover, qui fait quand même 300 pages, hein, mine de rien, parce que c'était des gros magazines à l'époque.
Est-ce que c'est du noir et blanc? C'est forcément du noir et blanc.
C'est
hein,
du noir et blanc, ouais, c'est ouais, du noir et blanc. Donc c'est sorti chez Dark Horse et vous retrouvez tout un tas d'artistes, hein, du Doug Munch, du Watch Aikin, du Bernie Wrightson, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis ce sont des petites histoires d'horreur, hein, genre de choses très appréciables et qui se lit très facilement. Chez DC maintenant, la sortie du troisième TP de cette nouvelle édition de Preacher avec les épisodes 27 à 33, ainsi que la mini Saint of Killers en complète et le spécial Cassidy Blood and Whiskey. Tout ça pour $20.
Blood and Whiskey. Très belle édition, ouais.
Ça s'appelle Blood and Whiskey?
Ouais.
D'accord.
Le Preacher Special Cassidy Blood and Whiskey, c'était le bon nom mélange. Complet pour être exact. C'est du Garth Ennis, Steve Dillon avec Glenn Fabry au cover.
Ouais, puis bah c'est génial hein. Preacher ouais, franchement.
Puis là c'est pas cher hein.
Ouais, $20, très très bonne nouvelle édition pour ceux qui auraient raté cette magnifique série de Garth Ennis.
Surtout que pour le moment Urban ne la ressort pas en français, ça manque. Faudrait qu'ils le fassent un jour.
Ils peuvent pas tout sortir en même temps mais
en même temps déjà, avec cette nouvelle édition, il y a des chances que ça arrive.
Ouais, ça va arriver.
On se rappelle l'édition Sandman qu'ils sont en train de faire.
Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, ce serait bien qu'ils ressortent Preacher.
Bah, peut-être après Sandman. C'est clair qu'ils peuvent pas tout sortir en même temps.
Moi, je pense après, une fois qu'ils auront fini Transmettre. Après, c'est déjà, ils vont commencer Transmettre. Il y aura 5 tomes. Et après, Preacher, c'est un peu dans le même style au niveau ton.
Oh, quelle merde, Transmettre comparé à Preacher. Moi, je veux même pas y comparer. Non. Pour moi, c'est de la daube.
Oh, je vais te la télé couille.
De toute façon, Warren Ellis, y a rien qu'il a fait qui m'a passionné.
Eh bien, voilà. Justement, Warren Ellis, très bonne transition, même si tu n'étais pas au courant, puisque tu n'as pas l'ordre des TP sous les yeux.
Je l'ai sous les yeux, je sais ce que vous allez faire. Je sais tout.
C'est la ressortie cette fois-ci en omnibus de Planetary. Gros hardcover au prix de $75 avec les 27 épisodes de la série, ainsi que le Planetary Batman, le Planetary JLA et le Planetary Authority.
Bah, moi aussi j'ai ri en lisant ça.
C'est un superbe omnibus, c'est vraiment ça fait plaisir, c'est un bel objet.
Warren Ellis, John Cassaday. Voilà.
C'était tout pourri, voilà. Je l'ai lu il y a quelques années, on m'en avait parlé en me disant c'est la série quoi. Il y en a pas d'autre. Et franchement, je me suis emmerdé à lire ça.
Mais tu l'as pas compris, c'est tout.
Mais je me suis emmerdé, c'est tout, non, c'est surtout ça.
Plaisante.
Ouais.
Ah ben de toute façon, je vais pas te jeter la pierre.
Les couleurs.
Exactement. Continuons avec du Image, une série dont on ne parle peut-être pas assez au goût de certains. C'est la sortie du TP The End de Savage Dragon avec les épisodes 187 à 192.
Et ben voilà une bonne série qui, alors bon, c'est certains diront c'est un petit peu vieillot, c'est vrai que ça fait des années que ça dure, mais c'est toujours très sympa. Mais pourquoi ça s'appelle The End? C'est vraiment la fin? Il arrête? Non.
Parce que Dragon est emprisonné.
Ah.
Eh oui.
Dragon qui était mort, qui est revenu, qui était méchant, qui est redevenu gentil, enfin il s'est passé plein de choses.
Justement, il est emprisonné à cause des crimes qu'il a commis quand il avait retrouvé sa personnalité de l'Empereur Cœur.
Ouais, le procès du Phénix.
Ouais, et en fait, le 193 qui va sortir le 19 février, ce sera un jumping point en fait. Il y a marqué même First Issue dessus presque, pour pouvoir permettre aux nouveaux lecteurs de tenter leur chance sur Savage Dragon.
Ils en avaient fait un d'ailleurs, il y a Back in Blue,
c'était aux alentours de l'épisode 150 par là.
Ouais, voilà.
C'est une bonne idée parce que du coup, effectivement, peut-être qu'il y a des lecteurs qui vont prendre le train en marche comme ça.
Bah, en tout cas, ça vaut le coup. Excellente série et puis surtout, quel travail d'Eric Larson qui la continue à bout de bras depuis le début des années 90. Franchement,
Depuis le début d'Image, tout simplement.
Ouais, depuis le début. Enfin, c'est incroyable. C'est d'ailleurs, c'est le seul.
C'est le seul, oui. C'est au prix de $17. Continuons maintenant avec Marvel. Marvel qui nous sort pas mal de vieux produits. Cette semaine, on commence avec le Wolverine par Ama et Silvestri, deuxième TP, au prix de $30, qui contient les épisodes 38 à 46 de Wolverine, ainsi que le Wolverine Run of Terra. Pour ceux qui veulent se remémorer le Wolverine par Larry Ama, bonne époque des années 90, où on voit passer tout un tas de personnages comme Jubilee, Forge, Cable, Nick Fury. Voilà, la grande époque des années 90, où le scénario de Wolverine s'encombrait juste de foutre des pains dans la gueule.
Ouais, non, c'est ça. Les scénarios de l'Eriyama, c'est marrant, ça a duré des années, mais c'était vraiment, vraiment pas les meilleurs. Enfin, c'est. Voilà,
Mais
pendant
on
des
avait
années,
un
vol.
magnifique Marc Silvestri, par contre, au dessin, quoi.
Ouais, c'était là, je crois, où il y avait Albert aussi, là, le clone robot de Wolverine.
Albert,
Albert, ouais.
Albert,
Albert. Et
ouais.
LCD, je crois, elle s'appelait, le petit robot qui avait un espèce de défaut de prononciation.
C'est incroyable d'ailleurs qu'il nous ait pas ressorti Albert d'un jour.
Et
Albert!
il est
Albert!
détruit, hein, je crois.
Ah ouais, mais Bébert, il faut qu'il se reconstruise là.
C'était un doppelganger robotisé de Wolverine.
Ah, il y avait même la figurine d'ailleurs, je me demandais ce que c'était.
Bien sûr, hein, vous croisez Sabretooth, il est sur la cover normale, quoi. Wolverine, Lariyama, Sabretooth, quoi. Donc $30 pour ce TP. Continuons avec une autre chose très intéressante, plus récente, mais ça reste encore un peu plus vieux quand même, le X-Factor par Peter David, TPB volume 1. Alors, ce n'est pas la série des années 90, même si ça aurait été intéressant de la republier, peut-être, pour voir la continuité de ce qu'avait fait Peter David.
Non, je crois que c'est encore dispo.
C'est la version plus récente, c'est-à-dire qui commence par la mini-série Madrox, avec une mini-série en 5, et les épisodes 1 à 12 de la série de 2006 de X-Factor,
Ouais.
donc post-House of M. Vous avez 17 épisodes pour $35. Très bon
Ouais.
prix pour
Ah, ça, c'est
redécouvrir cette
super.
série. Excellente, excellente série.
Mais non, enfin, si vous devez acheter un TPB ce mois-ci, voire cette année, c'est celui-là. Voilà, comme ça au
Bah, il
moins c'est
faudra même
réglé.
en acheter plus puisque les Complete Collection de X-Factor, ils ont prévu d'en sortir une tous les 4 mois. Donc à ce rythme-là,
Bah, il y en aura
je
trois dans
pense.
l'année, quoi.
Il y aura une on pourra avoir l'intégrale assez rapidement et c'est plutôt cool.
Ça, c'est génial. Non, franchement, il faut se jeter dessus. S'il y a une série Marvel à lire ces dernières années, c'est celle-là.
Enfin, restons. C'est marrant, c'est que du X-Men hein, cette semaine dans les TPB, avec un truc un peu plus vieux. X-Men TPB volume 1. Alors j'ai bien, c'est qu'ils appellent tout volume 1, c'est hyper chiant pour s'y retrouver. Ça s'appelle Road to Onslaught.
Oh putain, oui, alors ça par
Oh,
contre, si vous devez pas l'acheter, ne l'achetez pas.
oh.
Voilà.
Oh non, t'es dur.
Oh,
Ça
oh.
vaut $40 et
Je
ça
t'en prie,
contient.
je suis dur, ça dépend des moments, là, en
C'est
ce
parce que
moment.
nous, parce qu'après nous bosons. J'y reviens à cette vanne pourrie. Donc $40 et ça contient le X-Men Prime, le Uncanny X-Men 322 à 326, le X-Men 42 à 45, l'Annual 4 de 1995 de Uncanny X-Men et ou non de X-Men pardon et le X-Men Unlimited numéro 8. Eh oui, rappelez-vous ces histoires où le Juggernaut avait été balancé depuis le Canada et atterrissé en
Oui,
plein New York.
je m'en rappelle. Ouais. Je m'en rappelle. Et puis, il avait vu quelque chose. Voilà.
Eh oui.
Comme
Mais
Lorna.
là, on n'a pas attendu des années pour savoir ce que c'était.
Oh, bah oui, mais enfin, ça
Puisqu'il le
nous avait
disait à
été.
l'épisode, à la fin de l'épisode, il disait
Ouais, mais
Onslaught.
entre guillemets, ça nous avait été teasé depuis bien longtemps, le fait que Xavier pétait un peu les plombs.
Eh oui, tout ça revenait à des histoires de Claremont. Très très bien réutilisé. Non, enfin franchement, j'en garde un assez bon souvenir de Onslaught. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est un crossover des années 90 qui a redéfini le monde Marvel, mais c'était pas si mal que ça quand on voit certains autres crossovers d'aujourd'hui. Hein. Excuse-moi, Fear Itself.
Oui, tout à fait. Puis non, puis ça, artistiquement parlant, ça a quand même donné lieu à plein de choses, pas forcément très bien faites, mais c'était intéressant la démarche, comme Heroes Reborn, quoi. Non, mais c'était comme point de
Oui,
vue
non mais oui,
démarche.
la démarche était intéressante, oui.
Voilà.
Non, et puis on avait quand même des choses épiques à l'époque. On avait ce Sabretooth qui avait pris les griffes de Wolverine en pleine tête et qui avait donc plus de personnalité, qui était un espèce
Ah oui,
de truc
ex-Psylocke,
légume.
Psylocke était la seule à pouvoir communiquer avec lui. Ensuite, elle avait cette histoire de tache sur la gueule parce
Oui,
qu'elle
parce
avait été des.
il lui avait lacéré le bide, il avait fallu aller chercher l'aube rouge.
Ouais, la fameuse aube
Et
rouge
puis.
avec des très belles incursions 3D dans les dessins de Madureira, je me rappelle.
On avait aussi le secret de Gambit, enfin une des premières fois où on apprenait le secret de Gambit. Enfin bon, bref, il y avait plein de trucs à l'époque. Puis surtout, on avait des artistes assez intéressants. On avait Joe Madureira, comme tu l'as cité. On avait aussi Andy Kubert au dessin sur la série X-Men. On avait
Attends, mais
Scott
le plus
Lobdell au
drôle.
scénario, Fabian Nicieza.
Et oui, et Joe Kelly.
Et Joe Kelly, ouais.
Joe Kelly aussi. Et puis Scott Lobdell, bien sûr. Et surtout, surtout c'était du Madureira tous les mois. À l'époque, c'était normal. À l'époque, c'était tout à fait normal. C'était, il n'y avait pas de. Voilà. Maintenant, c'est une fois tous les 3 ans, quoi.
Oh, t'es dur, il a fait pas mal de trucs cette année quand
Oui, mais il va s'arrêter pendant 3 ans.
même. On vous remercie d'avoir suivi cette émission spéciale Onslaught.
Peut-être un jour, qui sait. Ah, mais ça reste des vieux souvenirs parce que nous on l'a découvert.
On faudrait
en
un
VF
jour qu'on fasse une petite
mais...
série. Moi je propose de faire une série de spéciaux, de petits spéciaux sur les grandes sagas des années 90. Voilà, l'idée est lancée et je pense que ça pourrait le faire.
Ah bah écoute, pourquoi pas? Pourquoi voilà. pas? Après tout. Oui. Je termine par deux projets assez. Assez étranges qui sont sortis chez Dial Books. Ce sont des projets écrits par Brad Meltzer. Alors Brad Meltzer, on le connaît quand on est fan de comics pour Identity Crisis notamment. Cet énorme, superbe crossover de DC avec un ton résolument adulte.
Et si on n'est pas fan de comics, est-ce qu'on le connaît ?
Eh ben, si on est historien, on peut le connaître aussi puisque c'est un éminent historien qui a eu pas mal de programmes TV hein, sur des différentes chaînes documentaires. Et Brad Meltzer a décidé de faire une série de bouquins plus pour enfants puisqu'il s'est rendu compte j'avais lu une interview où il présentait ses bouquins que sa fille par exemple ne connaissait pas Abraham Lincoln par exemple, ou elle connaissait pas Amelia Earhart ou d'autres hein, par exemple.
Ouais, mais elle connaissait Cyborg et Batman.
Mais elle connaissait par cœur le nom de tous les gamins de qui ont gagné les dernières télé-réalités aux États-Unis. Ce qui lui posait un petit problème. Donc il a décidé de faire des bouquins plutôt pour enfants. Donc on a deux bouquins qui sont sortis ce mois-ci, ça s'appelle I Am, donc Abraham Lincoln ou I Am Amelia Earhart, et c'est dessiné par Chris Heliopoulos, donc avec un style résolument enfant, enfin enfant. Oui, si un petit peu gamin, voilà, qu'on avait pu voir sur sur des projets comme les X Babies ou J-Man. Et bah voilà, c'est à destination d'enfants qui vont raconter un petit peu les éléments de façon un peu enfantine, les éléments de la vie, les éléments importants de la vie de ces personnages, enfin de ces personnalités, devrais-je dire.
Vivement celui sur François Hollande.
Ça vaut 12,99 le bouquin. Ça peut être très sympa pour apprendre pourquoi pas l'anglais pour vos enfants et un petit peu d'histoire en même temps. Et puis voilà, Brad Meltzer, Chris Heliopoulos, c'est quand même deux bons noms quoi. Voilà, j'ai envie de parler de ces deux petits projets que je trouve sympathiques et un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de traiter. Et c'est tout pour cette émission. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être un peu plus d'entrain et d'allégresse si les comics sont bons.
Non, mais là, il y avait de quoi dire, hein, mais c'est juste que ça prêtait plus à débat.
Ouais. Il y a quand même eu un chef-d'œuvre comme Deadly Class que je vous conseille.
En même temps, cette émission est plus longue que mon temps de sommeil de la nuit, donc forcément.
Ah mince.
Et merde, on a raté le coup.
Ouais, mais il y a eu une couille technique, donc pas forcément en fait.
Ah si, ça a dépassé, ça y est.
Ah merde.
On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. N'hésitez pas à réagir à nos avis hein, dans les commentaires. Et puis, vous retrouvez toutes les dernières émissions et les précédentes sur iTunes et sur le site, bien évidemment. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien, achetez plein de comics et faites-vous plaisir.
Ouais. Salut à tous. Ciao, ciao.
Maintenant, on va poser.
Allez, hop,
selfishness, meaning right now better be out of Cooper Cage.